Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive.
Refusez les potins et ragots.
Ça vous ennuie si je vomis?
Bien manger, c'est important.
À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi?
Parce que je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul.
Oh yeah. Oh yeah. Hello. Comment allez-vous, messieurs?
Très bien.
On va le faire individuellement.
Allez.
Comment va ce cher ami Pépé? Il a la mèche qui
scintille un petit peu là.
Il est bronzé, ah ouais, il a un t-shirt
en mode été,
en mode palmier.
Non, t-shirt franchement, ta dégaine aujourd'hui nous rappelle qu'on te chambre souvent, mais en fait, tu ne vieillis pas. Tu te bonifies.
Exactement.
Tu te bonifies comme les bonnes bouteilles de vin.
Ah, c'est l'épisode de Lèche-Boule, c'est officiel. C'est
le dernier de la saison.
C'est la dernière de la saison, exactement. Donc,
et pourtant, je me sens très très vieux. Le week-end a été difficile. Je mets du temps à m'en remettre. Mais ça va, il fait beau, c'est l'été.
On a ouï dire, mais j'ai... Ouais, on a ouï dire.
Ah, t'as eu des échos de...
Non, juste ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a suffi.
Ah, ça
m'a suffi. Quand t'es encore courbaturé 48
Charlie
heures après...
Charlie a parlé de ce que j'avais pu faire.
Non, pas encore, mais peut-être maintenant, Charlie. Comment vas-tu?
Ça va très bien.
T'étais avec Pépé ce week-end?
Oui, j'étais avec Pépé ce week-end.
C'était si violent.
Il est passé de Colombo à autre chose. C'est tout ce que je dirais.
J'étais déguisé en Colombo. Il a un grand impair.
Ouais. Voilà, il a l'air d'un ivrogne. Et t'avais aussi l'air d'un ivrogne.
Ouais, mais ça, tout le monde avait l'air d'un ivrogne. Donc ça, j'ai pas besoin de ça.
Avec un grand impair, tu peux faire plein de choses.
Oh, oui. On vous fait confiance. Charlie, tu as ressorti un t-shirt que.
Ah, j'ai sorti One Piece. One Piece Game of Thrones mashup.
Wow,
mais qui est vieux sa mère. Hein. Parce
qu'il a l'air bien, il a l'air fatigué ton t-shirt.
Il a pris cher.
Effectivement. Quant à toi, Angelo, bientôt en vacances.
À 48 heures, de retraverser l'Atlantique.
Bientôt de l'autre côté de l'Atlantique. Et tu as sorti un t-shirt qui met une demi-molle à ton voisin d'en face.
Un t-shirt.
J'avais pas bien vu.
Est-ce qu'on parle du nombre de victoires que je t'ai mis sur FIFA aujourd'hui?
On peut si tu veux. Alors, on peut si tu veux. Il n'y a aucun problème. Et bien après, on parlera de ta console pourrie qui ne fait pas les réglages manettes.
Évidemment, c'est la faute de ma console.
Écoute,
c'est la manette.
C'est la première fois de ma vie que je vois une console où tu ne peux pas régler les deux manettes différemment sur FIFA.
Il a pris le PSG, c'est scandaleux.
C'est bizarre ça.
J'ai fini par prendre le PSG. Pour c'est essayer de te mettre scandale. Quelques buts et j'ai réussi à t'en mettre 5 quand tu m'en as mis 11
avec une équipe mexicaine, je dois le rappeler
aussi. Voilà, c'est ça.
Mais content d'être en vacances dans pas longtemps et voilà.
Bien.
Et toi, Pedro?
Et toi, Pedro?
Eh bien, moi, je vais bien. Et j'allais te dire tout à l'heure que je ne pouvais pas tellement me permettre de chambrer ta cuite, ou votre cuite, messieurs, du week-end, parce qu'il y a 15 jours, j'en ai pris une tellement magistrale que j'ai dû faire un appel à témoins sur les réseaux sociaux.
Ah, oui,
pour qu'on me rappelle ma fin de soirée. Il me manque, j'ai toujours 2 heures de trou. Donc, si tu entends ce podcast, si tu m'entends, que tu m'as croisé entre 5 et 7 heures du matin, jeudi, il y a 10 jours, voilà, si tu peux me raconter ce que j'ai fait, ça serait sympa. Merci.
Si tu le reconnais à sa voix, déjà.
Ça devait pas être la même voix.
Oui, ça devait pas être la même chose.
Bon, messieurs, Trévon de Galéjade, nous nous retrouvons une dernière fois cette saison.
Allez.
Bah, même si on vous a prévu des petites surprises pour l'été, on vous en parlera en fin d'épisode sûrement. Même si on se retrouve donc une dernière fois cette saison, et on a décidé de faire un truc un peu souple, un peu cool. On a décidé de faire un espèce de super-héros battle.
Ouais. Je vais l'expliquer dans l'intro, t'inquiète.
Tu vas l'expliquer dans l'intro après, super. Ouais. Eh ben écoute, j'ai envie de te balancer directement l'intro. Donc Super Hero Battle, l'épisode final de saison 2. À toi Angelo pour l'introduction.
Allez.
Donc c'est une super intro sur les super héros, ou pas. Alors commençons peut-être par expliquer justement donc le format un peu spécial de l'épisode de ce soir. Ici, nul exposé énuméré en plusieurs parties d'une œuvre adéquate au thème retenu, non. Mais si nous avons choisi de nous réunir pour le dernier épisode de la saison, c'est pour nous départager sur nos préférences suivantes. Quels sont pour nous les meilleurs Américains fictifs portant du lycra avec une cape? Revenons sur la définition du super-héros. Si je cite Wiki, un super-hero, donc c'est un personnage type de fiction, la plupart du temps extrait des bandes dessinées américaines, donc ce qu'on appelle les comics, possédant et utilisant des super-pouvoirs pour remplir son rôle de héros, c'est-à-dire de mec ou de nana, voulant faire de notre malheureux monde un endroit meilleur en se consacrant à combattre le crime et à protéger le faible et l'opprimé du mal. Avec un M majuscule, bien évidemment, mais sans A circonflexe ni E final, même si. La définition paraît simple comme ça, sauf qu'en fait, derrière, il faut définir ce qu'est un super pouvoir pour avoir l'image complète. Alors, Kezako?
Qu'est-ce qu'un super pouvoir? Une habilité...
Surhumaine,
ouais, c'est ça.
Ok. Très bien, vous êtes d'accord. Bon, bah, ouais, c'est un consensus.
Bah, ouais.
Du surnaturel.
C'est ça. Un super pouvoir, c'est une capacité, une habileté, une compétence, un talent extraordinaire hors des limites humaines qui rend le super-héros unique. Voler, être invulnérable, avoir une force hors de ce monde, être plus rapide qu'une météorite. Bref, vous l'avez compris, ce petit quelque chose qui fait que Chuck Norris reste malheureusement sur la touche dans cette catégorie. A noter que tous les exemples ici cités de super-pouvoirs pourraient se rattacher à Superman, exemple donc parfait de super-héros. Une petite synthèse vite fait. Bon, ok, mais nulle prétention ici de partir de Gilgamesh pour tracer toute l'histoire des super-héros, et puis la flemme, hein, soyons clairs et honnêtes. Allons directement vers la version moderne, qui nous intéresse et qui part pour la plupart de l'âge d'or et d'argent des comics, c'est-à-dire des années 30 à 50 et des années 50 à fin 60. 1938 verra la naissance de ce porte-étendard qui est Superman, suivi en 1939 de Batman, deux créations publiées par Detective Comics, le futur DC Comics. S'en suivront une chiée de personnages plus ou moins similaires et kitsch qui essouffleront le genre jusqu'aux années 60 et à la révolution de l'éditeur Marvel, fort de ses jeunes têtes pensantes Stan Lee, Steve Ditko et Jack Kirby. Les 4 Fantastiques et Spider-Man en 1961 et 1962 respectivement, des personnages bien plus humains et perfectibles, habités par moult doutes et défauts et capables d'échouer. Je passe sur les ères modernes qui abordent un contenu toujours plus adulte et l'Outsider qui est l'éditeur Dark Horse Comics, dont on doit Sin City, Hellboy, 300, The Mask, etc. Pour en venir au fait suivant, vous nous connaissez, nous, vénérables vétérans de la culture pop, du pop cruise, nous sommes des die-hard. Nous ne nous attarderons donc pas forcément sur le genre cinématographique ultra-dominateur de cette dernière décennie, dirigé d'une main de fer entre Disney, Marvel et Warner Bros. DC, qui, soit dit en passant, essouffle et menace complètement le cinéma que l'on aime, tous. Mais nous irons plutôt défendre notre bout de gras sur l'essence, les fondamentaux des super-héros que nous chérissons tant. Bien, donc maintenant que vous avez tous les éléments, qui de Batman, de Hulk, de Spider-Man ou de Captain Marvel va gagner à vos marques pré-partez.
Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. J'aurais sûrement dû te consulter avant de faire mon quiz. J'espère que vous avez bien écouté, les gars. Il y a la moitié des réponses qui viennent d'être données.
Ah merde, bah, je vais gagner. Rapide.
Alors non, parce qu'il va y avoir un petit peu de réactivité à voir. Oui, parce que ce soir, messieurs, dames, vous avez bien entendu, c'est moi qui me suis occupé du quiz. Parce que c'est sympa que Charlie puisse participer au moins une ou deux fois dans la saison.
Qu'il soit une tôle comme tout le monde.
Voilà. Et puis que c'est un exercice que j'affectionne.
De coller des tôles à Charlie ?
Non, de faire des quiz.
Ah d'accord.
Je me flétris au contact du vent. Sous mes poils gris, je sens le parmesan.
Stéphanie, la monaco.
C'est ma bite.
Et oui. Allez. Voilà, et ça, c'est pas un super-héros.
Quoique.
Alors, messieurs, on va la faire à la rapidité. Il y a 15 questions, plus ou moins faciles. Il y en a des simples, en plus, surtout si vous avez écouté Angelo.
J'ai rien écouté.
Et il y en a des beaucoup moins simples, mais je vous fais confiance.
Alors, comment on intervient ?
Alors, justement.
On n'a pas de buzzer.
Je pense que vous n'avez pas de buzzer. Alors, moi, je voudrais que vous trouviez un signe distinctif relatif à votre super-héros.
Non, c'est pas ça.
T'as par rapport à mon super-héros.
Ouais.
Je tisse une toile.
Voilà, ça c'est pas mal.
Ok, d'accord, c'est ça.
Ok, toi tu es Hulk, donc bon ça.
Voilà. On fait caca.
J'ai rien. Y'a pas de son.
Fait.
Je sais pas, un bruit de cuivre.
Marvel.
Ouais, c'est un Pokémon, ça, c'est différent.
Ouais, écoute, super. Voilà.
Marv.
On va dire qu'il fait ça.
Voilà.
Allez. Vous l'avez bien en tête. Alors c'est simple, je vais énoncer la question. À votre place, j'attendrai la fin. Des fois, il peut y avoir des pièges. On ne sait jamais. Allez pas trop vite.
Okay.
En plus, vous avez le droit de répondre une seule fois. Vous êtes éliminé après.
Okay. Oh putain.
C'est un point par réponse.
Allez.
Messieurs, facile au départ. Comment appelle-t-on communément l'antagoniste du super-héros ?
Le super-méchant.
Le super-vilaine.
Le super-vilain
ou la super-vilaine, c'est pour Pépé. Eh oui, okay. Bah oui. Les règles, Angelo, les règles. Alors, j'ai pas du tout pris de quoi noter, mais je fais confiance à Charlie qui a une mémoire d'éléphant pour compter les points.
Oui, bien sûr.
Okay, donc, quelqu'un a un crayon sous la main ?
Pas du tout.
Juste derrière toi, mon cher Pépé, regarde, il y a tout un pot à crayon.
Avec le gras du saucisson sur la feuille, sinon.
On se croirait en grande section de maternelle de l'école Saint-Joseph à Ploubalet. Il y a plein de stylos 4 couleurs. Magnifique, merci Charlie.
C'est bien, il n'y a pas de PC.
Messieurs, là, vous avez eu la réponse il y a quelques minutes seulement.
Okay.
Un super-héros possède au moins 2 caractéristiques particulières sur 4 possibles pour être appelé super-héros. Citez-en donc 2 possibles. Vas-y.
Oh, putain. Quoi ? Donc une super force.
Pas vraiment, mais bon, continue, tu dois m'en citer deux.
J'ai des capacités qu'un super-héros peut avoir, quoi.
Il y a quatre caractéristiques particulières.
Pour être un super-héros.
Il faut en avoir deux pour être considéré comme un super-héros.
Ok.
Vas-y. Allez.
Donc, avoir des super-pouvoirs. Et avoir les qualités d'un héros, c'est-à-dire rendre le monde meilleur, sauver, avoir un sens de la justice.
Tu t'arrêtes là ?
Ouais.
Vas-y, Charlie, tente ta chance parce que les deux-là vont prendre zéro point. Là.
Putain, ah oui ?
Bah, génial.
Ah, pour moi, c'était une habilité surhumaine, du coup.
Ok.
Et qu'est-ce qu'il a raconté ?
Un moule bit.
En fait, le lycra.
Mais j'allais dire un costume, en vrai.
Porter du lycra.
Eh bien, Charlie prend donc deuxième point de cette partie, puisqu'il faut avoir...
C'était trop spécifique, ce que j'ai dit.
Donc, je vous donne les quatre possibilités. Ouais. Donc, je vous dis, il faut en réunir deux pour être considéré comme super-héros. Des capacités extraordinaires, donc force physique, rapidité, résistance, blablabla. Une double identité ou une identité secrète.
D'accord.
Celle d'un individu ou celle d'un secret de super-héros.
Un alter ego, quoi.
Voilà. Bon, y en a quand même quelques-uns dont l'identité est publique, mais ils sont plus rares. Un équipement, arsenal ou autre, lui permettant de rivaliser avec des êtres dotés de super-pouvoirs et d'accomplir des exploits a priori surhumains. Et le port, dans le cas de ses aventures, d'un costume distinctif.
Ok.
Voilà.
Donc moi, mal déguisé en Harry Potter ce week-end, avec ma capacité à tenir l'alcool.
Tu étais un super-héros, mec. Tu étais un super-héros tout le week-end.
Donc le sens de la justice, on s'en fout, du coup.
Messieurs, question là, beaucoup plus compliquée.
Ok.
Qui a écrit de Superman au surhomme ?
Aucune idée.
Sur les DC, en plus, je connais pas très. Je connais pas de nom.
De Superman au surhomme.
Aucune idée.
Bien, vous donnez votre langue au chat. Ouais, ouais. Moi, je comptais un peu là-dessus aussi sur cette question. C'est Umberto Eco. Un recueil dans lequel il fait remarquer que la plupart des histoires de super-héros évoluent hors du temps, puisque ceux-ci ne vieillissent pas et ont une vie toujours identique. Elles se situent également hors du monde, car malgré des super-pouvoirs parfois considérables, les super-héros modifient moins l'équilibre du monde qui les entoure que ce que l'on pourrait croire.
Ok.
Dac.
Messieurs,
pas du tout.
S'il le dit. Alors,
rapidité, qui est considéré comme le premier super-héros ?
Superman.
Bien joué.
Bâtard.
Il est affreux, mon son de buzzer.
Et en quelle année, à plus ou moins deux ans, est apparu ce couillon de Superman pour la première fois ?
1938.
Avril 38.
Pour Bibi, ça.
Comment s'appelle le premier groupe de super-héros réunis par DC Comics ?
Justice League.
Ah, je pense pas que c'est le premier, c'est pour ça que j'ai rien dit, en fait, j'avoue. Mais...
Tu ne peux plus répondre, Angelo, ça n'est pas ça.
Ouais, sauf que j'en ai pas d'autres.
Eh ben, tant pis pour vous, alors.
J'étais en train de réfléchir, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
D'ici, hein.
Ti-ti-ti. Je peux pouvoir répondre. J'ai même pas un nom.
Couille en lycra extraordinaire.
En 1940...
Attends, Marv, Watchmen ?
Non.
Non, c'est pourquoi les années 80, ça.
Ouais, mais j'ai tenté. Au moins, c'était un groupe, déjà.
C'est la Société de Justice d'Amérique en 1940.
Putain, non.
La fameuse.
La fameuse.
Putain, c'est nul.
La fameuse. Messieurs, Marvel Comics ne s'est pas toujours appelé Marvel Comics. Ils ont changé de nom dans les années 60. Comment ils s'appelaient avant ?
Putain, je le savais avant, fais chier.
Ah putain, mais si, ça, je le sais pourquoi.
Ah, je l'avais, mais...
Allez, Marv, le Stanley Comics.
Ouais, je tente, mais je suis pas sûr. C'est pas Marvelous, un comics ?
Non, du tout.
Marvin ?
Non. Rien qui vient. Non, vous en étiez loin. C'est Timely Publication.
Je l'aurais pas eu. Je pensais pas à ça du tout.
En quelle année ? Et là, vous allez la jouer. Vous allez la jouer à l'année près, hein, les gars. En quelle année apparaît Phantom Lady, la première super héroïne ?
Aucune idée.
Vous êtes obligé de tenter.
1925.
Ah non, il y a peu de chance.
Je dirais.
C'est la première super-héroïne. C'est pas une Marvel ni une DC.
Alors, je te rappelle que le premier super-héros, c'est Superman 38. En 38.
Mmh. Ah, mais non, j'ai compris, de Marvel.
Je tente.
Enfin, de DC, moi. Enfin,
je dirais, allez, 39.
Raté.
Non, je dirais bien plus tard. Je dirais. 47.
Raté, de loin.
Je sais pas, du coup, la première meuf, 65.
Eh bien, c'est 1941 chez Quality Comics.
Ah putain, j'hésitais au début 40. Putain.
Puis Wonder Woman en décembre de la même année chez DC.
Sauf qu'à la base, c'est une méchante dans Superman, Wonder Woman. Oui.
C'est bien possible, mais bon.
Je sais pas.
Elle apparaît. Oui, je déteste cet enculé. Pardon. Superman. Après plusieurs années de traversée du désert, quel célèbre auteur tentera sans succès en 1953 de ressusciter le genre ? une première fois.
Stan Lee.
Bah non. Et c'est Stan Lee.
Ah bon?
C'est DC. Bah ouais,
je crois qu'il a galéré au début.
C'est Stan Lee en 1953 qui a essayé de relancer le genre qui pénètre depuis 46-47.
D'accord.
Et c'est DC Comics, alors dirigé par Julius Schwartz, qui réanime le genre en 56, qui réussit. Le quatrième numéro du magazine Showcase présente une nouvelle version de Flash, et c'est souvent considéré comme le point de départ de la période désignée sous le nom d'âge d'argent des comics. Mmh. Mmh. Au début de l'existence de Marvel Comics, dans les années 60, Stan Lee s'associe à Jack Kirby pour créer les premiers personnages originaux de l'univers Marvel Comics. Ils sont quatre dans les années 60, un groupe de héros et trois héros solitaires. Pouvez-vous en citer deux des quatre?
Donc on parle des quatre fantastiques là, c'est ça?
Ah non.
Non, on parle de quoi?
On parle des créations. Les quatre premières créations par Stan Lee et okay, Kirby pour...
Spider-Man, les okay. quatre fantastiques.
Oui.
Alors là, réfléchissons bien. Il doit y avoir Thor.
Il y a Thor.
Et le dernier, je serais tenté de dire Iron Man.
Et tu ne l'as pas, mais tu m'en as donné trois et j'en demandais deux. Bravo.
Ah
bravo,
oui, bah, merci. Oh putain.
C'était Hulk. C'était Hulk. Parce en novembre 61, la série des 4 Fantastiques, c'est une équipe d'aventuriers qui n'ont ni identité secrète ni costume dans les trois premiers numéros. Au quatrième numéro, ils endossent un uniforme, très différent du costume traditionnel d'ailleurs. Mm-hmm. Suit en mai 62 Hulk, un scientifique transformé en monstre et en anti-héros poussé pour chasser par l'armée. Ouais. Puis Lee et Kirby créent Thor. Le dieu nordique surpuissant ouais. dont l'alter ego est un médecin handicapé.
D'accord.
Et la quatrième création de Lee, Spider-Man, est illustrée, elle, par Steve Ditko, initialement. Mm-hmm. Et c'est un adolescent conçu comme proche des jeunes lecteurs de la série, en fait. Yep. Pour choper du jeuneau.
Du gamin, quoi.
Quel est le titre du comics qui donne son nom au personnage principal créé pour DC en 71 par Len Wein et Bernie Wrightson, et qui prend pour héros un scientifique transformé en homme-plante dont les tentatives pour retrouver forme humaine le conduisent à vivre des aventures au cours desquelles il rend la justice?
Non,
je l'ai pas. Un homme-plante.
Un homme-plante. Créé en 71 par Len Wein et
Bernie.
J'y
vais quand même, hein, Marv. Plantman, tout simplement.
c'est peut... pas ça, mais c'est marrant.
Bulle bizarre. Enfin, je l'ai tenté. Bulbiman.
Et alors, vous comprendrez vite pourquoi je cite ce comics en particulier. Il a une particularité en 71.
D'accord, ce que tu dis.
Attends, est-ce que.
Ah oui, la weed.
Est-ce que ça. Alors, tu dis que c'est un homme.
C'est Purple Man.
C'est un homme.
Peut-être ce serait Poison Ivy qui serait devenue une femme derrière, non?
Non, raté. Non, c'est pas ça.
Poison Ivy.
Personne n'a rien. Bien joué.
J'en sais rien.
C'est la créature des marais. Et c'est là...
Oh, je la connais, putain de bordel.
Je le savais que tu
savais. Je vois sa gueule, en fait, ouais.
Mais c'est l'un des premiers comics qui ne s'adresse quasiment. Qu'à des adultes, c'est beaucoup plus sombre. Voilà,
j'avais
c'est
ça allait avec les Strange Tales aussi, c'est des trucs de Bayou là qui étaient glauques avec le vaudou et tout le bordel.
Question de rapidité là, attention messieurs, qui est l'auteur de la mini-série Watchmen?
J'en sais rien du
tout. Oh, sans déconner.
La mini-série?
Bah la mini-série qui a été reliée en un seul énorme tome qu'on connaît tous maintenant, mais qui à l'époque sortait, qui est sorti en 12 numéros, je crois.
Non, j'en sais rien.
En 12 chapitres. Il me semble, j'ai peut-être une bêtise sur le nombre de chapitres, mais c'était en mini-série.
Je tente, mais je sais que c'est pas ça, mais je vais dire Steve Miller.
Non, on m'a raté, c'est l'autre.
Ouais, non, je peux pas.
Non, mais j'ai rien.
Ah bah écoutez, je suis désolé, je pensais vraiment que vous l'aviez, c'est Alan Moore.
Voilà, merci.
Et illustré brillamment par Dave Gibbons. Excusez-moi, je pensais que c'était...
C'est pas grave.
Non.
Ouais, excuse-toi.
Excuse-toi.
Le premier super-héros noir est paru dans les 4 Fantastiques, numéro 5, en 1966. Mmh. C'est bien sûr Black Panther... ou la panthère noire, mais connaissez-vous son véritable nom?
Ne pas faire de blagues racistes.
Donc là, il y avait un piège, tu pensais qu'on allait répondre avant la fin, là. Ouais. Répondre Black Panther avant la fin, salaud. J'ai failli le faire. Mais du coup, j'ai pas la réponse. Non,
non, sérieux, même après avoir vu les films, les gars?
J'ai pas du tout aimé Black Panther.
Ok, bon bah c'est T'Challa.
Ah, le fameux.
Alors du coup, les points, ça a l'air minable, là, pour l'instant.
Oh, c'est pas ouf. 3-3-2.
Ok. Bon, Black Panther est le premier super-héros noir, ok. Bon, là, je pense que vous allez être nuls encore. Mais quel est le premier super-héros noir, pardon, à avoir eu le droit à sa propre série en 1972, où c'est vraiment lui le héros principal? Vous le connaissez, je suis sûr que vous le connaissez, c'est pas possible autrement.
Tu es en train de faire le tour des héros noirs, du coup.
Ouais, je vois un mec dans la Justice League, mais je sais plus comment il s'appelle. Une espèce de
Iron Man. En 72.
En 72, ouais.
Marv, Hancock.
Non.
Le fameux. J'en sais rien.
Bah, peut-être Captain America, vu qu'il change de.
Non.
J'en sais rien.
C'est Luke Cage, aka Power Man.
Ah.
Luke Cage, non, ils ont fait une série. Il y a une série sur.
C'est l'homme prise électrique.
Sur Luke Cage.
Je l'ai pas vu.
Donc je pensais que vous connaissiez aussi.
Ah, c'est je connais deux noms, mais.
Vous êtes vraiment très nuls. La dernière devrait aller très vite. En 2004, les studios Pixar présentent des super-héros à la retraite forcée, menant une existence.
C'est peut-être pas ça, là. Je connais même pas trop la question, mais je dirais les indestructibles.
Ah putain, bien joué.
Ouais. Yes, putain, de la chance. Mais vas-y.
C'est bien, ça me fait gagner.
Alors, tu nous as fait le décompte des points, mon cher Charlie.
Moi, j'ai deux points. Parce que,
c'est le point de la victoire.
Ils ont été nuls à chier sur la réponse des habilités.
C'est vrai.
Angelo 3 et Pépé 4.
Ah yes, putain.
En plus, tu l'avais.
Mais oui, je l'avais, mais.
La fin,
mais hein. Je pensais qu'il y avait un piège, alors du coup, j'ai pas osé le dire.
Ça veut dire que vous avez quand même répondu à 9 questions sur 15, ce qui est pas mal, parce que je le trouvais un peu raide. Non, c'est pas mal. Bravo.
Par contre, ça marche pas comme ça, parce qu'il y avait 2 points des fois par question.
Ah bon?
Enfin, moi je me suis mis 2 points pour les 2 habilités et j'ai mis 2 points pour les 2 trucs qu'il avait répondu.
Ok.
Bon, bah
ça.
Du coup, Pépé, ta victoire est vachement méritée.
Écrasante.
Ok. Il était peut-être un peu costaud, j'ai pas l'habitude d'en faire, j'ai pas ton expérience.
Non, mais même.
Puis je vous pensais un peu plus malin surtout.
Ah, mais c'est surtout que moi j'y connais rien, hein, moi je connais aucun nom.
Charlie, je comprends, en fait, je comprends ton désarroi, c'est dur d'être face à des cons.
Les incultes.
Bâtard.
Et puis clairement, tu vas trop sur des trucs, moi je connais aucun nom.
Je vous avoue que
d'écrivain de
je connais même pas Batman.
Je pense que j'aurais eu 2 points si j'avais dû faire ce quiz avant de l'écrire.
Non,
inquiétez pas de problème.
Bah, merci bien, en tout cas, c'est quand même cool.
Ouais.
Merci. Messieurs, nous allons devoir maintenant chacun présenter notre super-héros, le vendre aux autres, expliquer pourquoi avec le plus de bonne foi possible, évidemment.
Évidemment,
vous connaissez. Vous connaissez. Pourquoi notre champion est forcément meilleur que celui des autres. Et à ce petit jeu-là, on a fait passer le champion du monde de la mauvaise foi en premier, histoire d'être débarrassé tout de suite. C'est Angelo.
Ok, jingle. J'ai peur, mais... Ah oh, c'est bon, ça. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there. C'est la mini tout ça. Vous l'aurez compris, je vais donc vous parler de Flash. C'est super. Non, je vais vous parler de Amazing Spider-Man, du coup. Ouais, donc je vous avoue que j'avais plusieurs héros. Hein. Je pensais au Surfeur d'Argent, à Moon Knight, et en fait, non, Spider-Man, ça faisait de l'ombre à tout le reste. Parce que le rapport que j'entretiens avec Spider-Man, c'est comme toutes les choses qui me sont chères, c'est d'abord un rapport à l'enfance. À l'enfance et au skateboard. Pour moi, Spider-Man, contrairement à tous les autres héros, a toujours eu un côté foncièrement cool, dans le sens freestyle du terme. Son côté ado joue peut-être aussi, je reviendrai dessus plus tard. Tony Hawk, Pro Skater 2. Évidemment. Perso secret à débloquer avec sa myriade de costumes différents qui donnaient déjà envie d'en savoir plus, et ses tricks venus de l'espace où tu pouvais utiliser sa toile pour rappeler le skate vers toi, etc. Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Ah oui, complètement. Jamais... Je l'ai bouffé le 2.
C'était incroyable, ça.
J'ai commencé à penser vraiment les Tony Hawk à partir du 3, donc non.
Ah,
non, pas vraiment.
De ce jeu vient un autre jeu, développé à la même époque 2000, par la même boîte, Neversoft, publié par Activision. D'ailleurs, l'apparition dans le premier était une sorte de pub pour le second. Spider-Man, premier du nom sur PS1. Et là, les copains, laissez-moi vous dire que je m'étais pris une sacrée baffe dans la gueule. Le fait de tisser sa toile librement sur les toits des gratte-ciels de New York, de ramper sur n'importe quelle paroi, c'était complètement grisant pour moi.
Sur les gratte-ciels, s'il te plaît, non, c'était dans le ciel au hasard, on savait pas où ça allait. Hein.
C'était les toits des gratte-ciels. Non, le niveau 1, c'était les toits des gratte-ciels de Manhattan. Les autres super-pouvoirs des autres super-héros, je les mettais un cran en dessous, parce que ce que ce jeu me permettait de faire, je kiffais ma race au max level. Mais ça, c'était bien avant Spider-Man 2, jeu adapté du film du même nom quelques années plus tard, donc en 2004, sur GameCube. Et si dans le premier, on faisait semblant d'avoir un monde ouvert sur les toits, dans ce jeu-là, c'était tout Manhattan d'à peu près remodélisé. Un terrain de jeu incroyable et des sensations de vertige sublimées.
Attends, c'est quand même une époque de la 3D un peu crappy, quoi.
Un peu crappy, mais à l'époque... Notez que jusqu'à présent, mon rapport à ce personnage personnage était presque exclusivement réservé aux jeux vidéo. Oui, il y eut le dessin animé pas ouf des années 90, 1994 pour être précis.
Pas ouf.
Non, c'est un bon générique.
Oui, il y eut la trilogie à la qualité irrégulière, même quelque part culte désormais de Sam Raimi. Mais ce qui va finir de me faire basculer, c'est bien la découverte des tout premiers comics, bien plus tard quand je serai alors un jeune adulte perdu dans le fin fond du Canada. À cette époque se trouve un bookstore pas loin de ma demeure. C'est là que je commence à dévorer tout l'âge d'argent des comics américains, et en particulier des Marvel, qui brillent à cette époque. Les Strange Tales, justement, les Silver Surfer, et les 5 premiers volumes compilés du Amazing Spider-Man, possédant un certain nombre de planches en couleur. Et là, on peut dire que c'est une révélation. D'abord esthétique, évidemment, un vrai coup de foudre pour le coup de crayon de Jack Kirby. De la ligne claire et noire, parfois bien épaisse, des couleurs franches, des trames, tout ce que j'aime. Ça respire l'époque de Roy Lichtenstein. Mais passé cet amour des visuels, c'est l'écriture qui finit de me séduire, celle de Stan Lee et de Steve Ditko. Ces deux hommes-là, c'était des génies. Peter Parker, c'est le héros auquel le jeune lecteur américain pouvait immédiatement s'identifier. Un adolescent pétri de doutes, souvent livré à lui-même, victime de solitude et de dépression, ayant clairement un complexe d'infériorité, sans compter sa maladresse envers les autres, sa difficulté de sociabiliser, le fait qu'il flirte toujours plus ou moins avec la précarité. Il prend tellement de place que parfois son alter ego Spider-Man n'est même pas présent d'un numéro à l'autre. Pourquoi ? Parce que le développement du personnage, sa psychologie, tout passe par l'humain, par Peter Parker. Et ça me parle beaucoup plus que vos super-héros à la con. J'ajouterais que la manière et la méfiance dont l'adulte perçoit Spider-Man, et en particulier notre bon vieux JJJ, John Jonah Jameson Jr., et bien en fait c'est la manière dont l'adolescent américain sent qu'il est perçu par l'adulte. Retirer cette sensibilité à l'univers de Spider-Man, c'est ne rien comprendre aux intentions de leur auteur. De cette même époque canadienne, j'avalerai par la suite l'âge de bronze des années 70 et 80 de Marvel, dont Moon Knight et toujours plus de Spider-Man, comprenant la multiplicité de ces arcs narratifs parfois déroutants et propres aux comics. La publication de The Amazing Spider-Man continuera en plus de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, etc., puisqu'il y aura The Ultimate Spider-Man, etc., Ultimate, ouais. Dans lequel Peter Parker devient un adulte, donc il vieillit, il arrivera à se marier, mais dont la vie sera toujours loin d'être un long fleuve tranquille. Ah, et pour en revenir au cool, Spider-Man, c'est un nombre incroyable de costumes différents. Certains très réussis, d'autres beaucoup moins. Ouais. Mais toute l'époque, ma préférée, c'est celle du symbiote, du Spider-Man tout en noir, en planche couleur. Il bat tout le monde niveau swag. Il pète la classe, sa mère. Et voilà pourquoi c'est le meilleur héros pour moi. Ciao les nazes.
Tu ne m'as pas convaincu, non. Mais j'ai une tendresse quand même immense pour Peter Parker.
Du coup, t'as...
Je pense que c'est parce qu'on était des faiblards et qu'on aimait bien parce que c'était un faiblard qui réussissait. Du coup, ça nous rend pas honneur.
Qui réussissait pas.
Ouais, attends, ça va. Wow.
Ça va quand même.
Est-ce que dans la vie de tous les jours, non, mais dans son costume.
Est-ce que t'as poncé le jeu vidéo le sur dernier du coup?
Non, parce que c'est exclu.
T'as pas Sonic. Sauté dessus
bah, c'est Sony qui l'a fait.
T'es pas très très fan.
Je le commence la semaine prochaine.
Ok.
Je l'ai dans ma jeu-tech depuis quelques jours.
C'est parti des très rares jeux sur PlayStation qu'on peut pas, qui sont exclus PlayStation en fait. Donc,
autour de la table, a tout le monde kiffe Spider-Man ?
Non.
Non mais
reposes la question en off, mais
hors
là
hors compétition les gars.
Présenté par Angelo, non.
Non là pour l'instant là, je suis pas convaincu.
Ok. Non, il te l'a pas vendu.
Spider-Man. Ah bon. Je vais être un peu de mauvaise foi. Oui, enfin, bon, honnêtement, oui, je l'aime bien, mais il y a des aspects que j'aime pas trop. C'est son humour un peu lourd. Il a souvent cet humour un peu lourd. Peut-être pas dans tout ce qu'on a pu voir. Bah, justement, quand tu parlais de la première trilogie, il a pas cet humour lourd qu'on peut lui connaître.
Alors, celle de Sam Raimi.
La première.
Tu parles des films.
Les films, ouais.
Si, si, là.
Par la suite, il le retrouve un petit peu, ce qui lui correspond plus. Et ça, parfois, je trouve il est un peu lourd, ce personnage, en fait.
Et toi Charlie, ouais, j'en ai une pour après.
Spider-Man, ouais. Il est un peu pato quand même en fait, hein, souvent, ouais, voilà. Dans ce qu'on voit. Oui. En fait, c'est cool parce que pour toi, il a super sensibilité, je sais plus quoi, machin, alors que tu sais tous les trucs, et pourtant, des fois, il est vraiment pato dans ce qu'il fait, tout ce qu'il fait. Donc,
Moi, j'ai vu un truc il y a pas longtemps, un truc il y a pas longtemps auquel on a. Aucun d'entre nous n'a prêté attention quand
clairement,
on était
enfant. Clairement, ce qui sort de lui, ça rappelle le sperme que tu sortais quand t'étais petit. Il a dit que c'était son adolescence.
Il fallait que ça parle aux ados aussi.
Ouais, ah ça bascule. C'est vrai qu'il y a peut-être un truc un peu...
Ah bah oui, l'analogie est quand même facile.
Oui, il y a une analogie sûrement. Ouais.
Ah, vu que la cible, c'était les ados, ils ont pris...
Bien joué, ouais, ouais, c'est vu, j'avais jamais
un humour lourd,
ça.
Des jets de trucs blancs.
Alors, on est...
J'ai vu un truc...
Dans le comics, il y a zéro jet blanc, c'est juste de la toile d'araignée.
J'ai vu un truc récemment qui m'a fait mourir de rire. rire, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, on n'a pas fait gaffe à ça quand on était gosse. Alors j'ai pas regardé la version anglaise, mais de toute façon, vu comment c'est foutu, il y a de bonnes chances pour que la vanne existe aussi en anglais. En tout cas, si c'est juste français, les traducteurs s'ont fait un grave plaisir. Il y a Spider-Man qui est au chevet d'une petite fille malade à la fin d'un épisode. Et oh, merci beaucoup Spider-Man de m'avoir sauvé. Ah bah j'espère que tu reviendras me voir très vite. Et il fait comme ça. Oui oui très vite. Ne t'en fais pas. Et il s'en va. Et bah il y a un truc. Je sais plus. C'est pas tout à fait ça la vanne. Mais il saute. Il atterrit sur le muret de l'hôpital. Et en fait tu vois une plaque juste en dessous et c'est en anglais. Donc à l'époque nous quand on était gosse on pouvait pas traduire. Mais maintenant. Donc je suis grand, j'ai traduit. C'est hôpital pour enfants malades en fin de vie. Et c'était que de l'humour comme ça, visiblement. Ils en foutaient partout.
Ça, c'est pas mal.
Et je serais curieux de revoir certains morceaux du dessin animé qui n'étaient pas terribles, c'est vrai, mais juste terrible. Pour voir les vannes comme
j'ai
ça qu'ils ont glissé.
Jamais vu dessin animé. Mais t'as plein de mèmes avec ce.
Ah, oui, il y en a. Il y avait pas. Un truc que j'aimais bien dans le dessin animé.
Que les mèmes, c'est pas que celui des années 90. T'avais un dessin animé dans les années 70 aussi.
Moi, j'aimais bien Tante May dans le dessin animé. Me plaisait bien. Je la trouvais plutôt humaine et tout, elle avait des réflexions intelligentes, c'était elle qui donnait de la hauteur un peu au personnage.
J'aime bien Tante May dans les derniers.
Dans les derniers, c'est ce que je veux dire.
Sa tante qui a 15 ans de plus que lui. Et
c'est sûr que là, c'est
tu fais du 95F. Ouais,
parce que la tante italienne, là.
Du 95F. Tante May.
C'est qui déjà Tante May dans les derniers? Je me rappelle plus l'actrice.
Je sais plus.
Elle est super connue. Hein.
Elle est charmante.
Bon, bref. Très bien. Bah, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Spider-Man. Tu l'as pas super bien vendu, à mon avis, tu perds.
Ah bon, bah j'attends de voir les vôtres.
Non, c'est juste pour te foutre la pression. Bon, bah je crois que c'est à moi. Alors attendez, parce que je sais plus du tout où j'ai rangé mon bousin, moi. Ça y est,
je t'envoie un jungle.
Je suis dessus. Ah bah tu m'envoies un jungle. Bon bah super.
Ça envoie ça.
Ça, c'est une putain de musique.
Oh.
Bon, bah, je vote pour toi.
Merci Charlie, sans déconner. Rien que ça, pardon, excusez-moi, voilà, j'ai pas mis tout le monde d'accord. Merci, c'est la fin de ma chronique.
Ok. Bah, je suis pas convaincu par ta chronique.
J'ai appelé cette chronique et j'ai développé cette chronique comme si j'étais Angelo. J'ai mis énormément de cœur à la tâche parce que mon super-héros, vous allez le voir, part avec des lacunes.
On a de la pression quand même.
J'ai appelé cette chronique Pourquoi Batman casse la gueule à vos super-héros pour bébé.
Roi.
Dans Justice League, où tous les héros se réunissent pour la première fois pour combattre le mal qui se cache dans cet épisode particulier, c'est la première rencontre de tous les personnages. Donc tous les super-héros présentent leur pouvoir et expliquent pourquoi il est super. Green Lantern, après avoir expliqué que sa bague lui permet de manifester tout ce à quoi il peut penser, interroge Batman sur son super-pouvoir. Mais Batman ne dit rien. Et là, j'adore la réponse de Green Lantern. Attends une seconde. T'es pas juste en train de me dire que t'es un gars en costume de chauve-souris. C'est ça. Tu plaisantes, j'espère. Et en fait, sa réaction dit tout. Parce que, mais qui est vraiment Batman? Bah, c'est juste un gars en costume de chauve-souris, rien de plus. Il a pas de super pouvoir qui le rende ultra rapide, ou super fort, ou capable de voler, ou même de parler aux poissons, comme ce tocard d'Aquaman. Alors, qu'est-ce qui qualifie Batman pour se compter parmi ces surhumains? Eh bien, je vais...
La thune,
la moula, le flouze.
Et surtout, pourquoi Bruce Wayne, l'alter ego de Batman, a-t-il choisi de s'habiller en chauve-souris plutôt qu'en tigre, en lion, en aigle ou en autre animal puissant? Donc c'est le premier chapitre de ma chronique que j'ai appelé, ce premier chapitre, « Pourquoi donc une saloperie de rat volant comme symbole ?» Pour comprendre la raison de son choix de tenue, nous devons plonger dans sa jeunesse, où l'histoire d'origine secrète nous dit que Bruce Wayne est tombé dans une grotte remplie de chauves-souris petits. Il était tellement terrifié par les animaux que tout son corps a gelé. Il a ensuite été secouru par Alfred Pennyworth, le majordome, alors qu'il était encore en état de choc. À l'âge adulte, Bruce retourne dans la grotte pour faire face à ce traumatisme d'enfance et l'emporte sur sa peur. Voilà, il devient un guerrier intrépide. Il adopte le symbole de sa reconquête comme un rappel constant et transforme la grotte, donc en quartier général de son état de super.
Déjà, en fait, il avait de la chance qu'il serait tombé sur un nid de moustique, ça aurait été déjà moins sympa.
C'était vachement moins rigolo. Ouais. Voilà. Cela fait de Batman un véritable super-héros. Il a gagné sa légitimité par son courage et son intrépidité. Il ne l'a pas reçu par un accident bizarre comme la Fiat Spider-Man ou par une naissance extraterrestre comme l'autre nazi extraterrestre qui met son slip par-dessus son pantalon. Cela le rend vraiment fort. L'esprit de l'homme, une fois tendu par une idée nouvelle, ne retrouve jamais ses dimensions d'origine, disait Oliver Wendell Holmes, auteur et médecin américain, 1809-1894.
Ok.
Un peu de culture, monsieur. Donc je reprends. Au début, il est devenu Batman, le justicier de rue. Puis il est devenu Batman, le gardien de sa ville. Et maintenant, il se bat aux côtés de super-héros qui exercent un pouvoir sur les forces surnaturelles et protègent le monde entier. N'oubliez pas que Batman, c'est juste un gars en costume de chauve-souris. Et il se bat à côté de vos gars à vous, là. Ça m'amène au deuxième chapitre. Pourquoi donc, alors qu'il est le plus badass, vénère et efficace que les autres rigolos en collant et masques de carnaval ? Eh bien, j'ai listé les raisons. Raison numéro 1, c'est un héros laïcard, plein de thunes, ok, mais presque un enfant de la DAS. Il n'est pas un dieu, ou une inspiration d'un dieu, comme ses camarades de DC, ou une représentation christique, comme l'autre monsieur propre, là, en slip par-dessus le pantalon. Il ne possède aucun pouvoir et combat le crime, uniquement armé de sa propre intelligence et de son aptitude au combat. On se souvient aussi de sa réponse édifiante lorsque Barry Allen, donc le Flash, lui demande dans Justice League quel est son super pouvoir. Il répond « Bah, je suis riche ». Batman, c'est également un héros qui est véritablement blessé. La mort de ses parents est un véritable traumatisme, et c'est ce traumatisme qui s'avère être l'origine de sa lutte contre le crime. On pourra me rétorquer que chaque super-héros possède son traumatisme. Spider-Man a perdu sa tante May, Wonder Woman a perdu Steve Trevor, Aquaman a perdu son fils dans la mort du prince, et blablabla, et blablabla. Bla bla. Néanmoins, le traumatisme originel de Bruce Wayne me semble d'un ordre particulier. Car toute la psyché du personnage découle précisément de ce traumatisme originel. Sa lutte forcenée et parfois déraisonnée contre le crime organisé, sa volonté de créer une famille, qu'il appelle la Bat Family, son obsession pour l'héritage des Wayne, tout découle de cet événement fondateur. La lutte de Batman contre le crime n'est que résilience contre sa propre douleur. Autrement dit, quelque chose que chaque lecteur peut comprendre, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Green Lantern, tous sont le fruit de leur propre puissance, tandis que Batman, lui, est le fruit de sa propre faiblesse. Raison numéro 2, il vit dans la même galère et le même tiécard que nous, frères. Batman...
Gotham, c'est chaud quand même.
Attends, on n'y est pas. Non.
Pas beaucoup de
on n'est pas encore dans la, au niveau de la Tessie, tu vois. Je te parle de la galère de tous les jours, tu vois. Ouais, Batman, ouais, c'est un héros qui... Batman, c'est un héros qui court les rues, les égouts et les taudis. Autrement dit, le champ des possibles de Batman ressemble bien plus au nôtre qu'à celui de ses collègues de la Justice League. Oui, on n'est pas là, tu vois, en train de naviguer dans la Voie lactée de Thor avec son gros marteau que personne n'arrive à soulever, là. On n'est pas sur la planète entièrement glacée de l'autre con de Superman, on n'est pas...
Putain, Superman, il prend cher. Ouais,
c'est sûr. Heureusement que personne n'a choisi celui-là.
Je vous rappelle que Batman contre Superman, voilà, bah oui, bah c'est un peu son Némésis, presque.
Ouais, bah
presque.
C'était bien de la merde comme film.
C'est vraiment cool. Ouais, c'est clair.
Gentil Némésis. Bref, donc je vous disais, ça ressemble quand même beaucoup plus à notre quotidien à nous, quand même, là où il se balade. Là où ses aventures l'emmènent, donc dans Gotham. Et notamment ses aventures avec la Justice League, il y en a qui se passent à Gotham. Voilà, là on est dans le concret, quoi. Bon, les meilleurs récits de Batman sont ceux qui se passent à Gotham, de toute façon. C'est The Killing Joke, c'est The Dark Knight Returns, c'est Un Long Halloween, par exemple. Raison numéro 3, il est faillible. On passe moins pour des tocards à côté d'un gars comme ça, nous. Si Batman donne des coups, il en reçoit également beaucoup. Plusieurs scènes des films de la trilogie de Nolan, par exemple, montrent un Bruce Wayne blessé. Mordu par un chien dans The Dark Knight ou fracassé par Bane dans The Dark Knight Rises. Pardon. Une autre scène de Justice League nous montre le torse tuméfié de Bruce Wayne, qu'aperçoit d'ailleurs Wonder Woman qui est sensiblement choquée. Et d'ailleurs, Frank Miller utilise l'imagerie d'un Batman vieillissant, souvent sanguinolent, dans son chef-d'œuvre The Dark Knight Returns et ses deux suites, The Dark Knight Strikes Again et The Dark Knight The Master Race. Et Batman est également un héros qui fait des erreurs. Bien qu'il soit armé d'une intelligence hors du commun et d'un code moral rigoureux, il lui arrive parfois de plonger dans les pièges et les abîmes tendus par ses némésis. Ainsi, Batman va tuer le Joker à plusieurs reprises. Ça, c'est voilà, c'est l'effet et hasard des nombreux bouquins qui ont été écrits. Bah oui, forcément, mais c'est le type qui a eu le plus de bouquins écrits sur lui avec l'autre con qui porte son slip par-dessus son collant. Donc il tue plusieurs fois
pas,
le Joker.
Pas toujours, il a pas toujours son slip.
Ouais. Donc dans The Dark Knight Returns d'ailleurs de Frank Miller, il le tue. Il a aussi une incapacité à faire confiance régulièrement. Il lui arrive d'être la cause de bien des maux de la Justice League. Et puis il met aussi en danger ses apprentis, comme dans la trilogie The Dark Knight de Miller toujours. Voilà, donc ça le rend humain, ça le rend un peu comme nous, on se sent proche du gars. Raison numéro 4, il s'inspire des meilleurs. Il est évident que Batman tient en partie du personnage de Sherlock Holmes, créé par Arthur Conan Doyle. Et oui, bah oui, c'est un détective, parce qu'à l'origine, Batman, c'est un détective.
Il aurait peut-être dû rester détective, non ?
Il est clairement inspiré. Non, ça, il a clairement inspiré. Leurs intelligences exceptionnelles, leur obsession pour les enquêtes, les relations avec leur acolyte, leurs relations avec leur némésis, tous ces éléments sont hérités du mythe de Sherlock Holmes. Ensuite, il est également évident que l'univers de Batman est imprégné d'iconographie gothique. Et qu'est-ce qu'on connaît comme iconographie gothique proche de la chauve-souris ?
Ah merde, ce qu'ont les Allemands, là, le groupe allemand qui chante en allemand.
Tokyo Hotel.
Tokyo Hotel, voilà, j'en étais sûr, vous êtes d'accord. Non, c'est une réminiscence de Dracula de Bram Stoker, les gars. Et ouais. Et d'ailleurs, le Joker n'est pas sans rappeler le Gwynplaine dans L'Homme qui rit de Victor Hugo. Et même l'architecture de certains bâtiments rappelle l'architecture gothique. Ça, c'est particulièrement visible d'ailleurs dans la série de jeux vidéo Batman Arkham. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont joué.
J'ai la trilogie.
C'est magnifique hein, comme jeu. Non ?
Si, si.
Ah oui. Ce n'est pas pour rien que Tim Burton a mis autant de lui-même dans son adaptation des aventures de l'homme chauve-souris. Pardon. Le tout saupoudré de grands mythes de la science-fiction. Raison numéro 5, messieurs. C'est
attends, il y a combien de raisons là ?
Il y en a 6 plus des subsidiaires.
Oh putain, pop, c'est quoi ce délire ?
Raison 5, c'est lui qui vit dans la ville la plus dégueulasse. Et ça, je suis désolé, c'est un handicap.
Ouais, t'as pas été à New York, toi. Hein.
Comme dit précédemment, bien
t'as pas été sur toutes les planètes où elle a été, moi je peux le dire.
Bien que Gotham ait déjà quitté. Bien que Batman ait déjà quitté Gotham à de nombreuses reprises pour ses missions, sa ville fait indéniablement partie de son ADN. Gotham est une ville profondément paradoxale. Elle est décrite comme une ville corrompue où la pègre semble être l'unique maître à bord. Dans cette ville, cette ville semble changer son visage à la tombée de la nuit, pardon, pour offrir à ses habitants un théâtre de sang et de drogue. Elle a donné naissance à quelques-uns des méchants les plus emblématiques de la bande dessinée, du Joker au pingouin, en passant par le Sphinx et Poison Ivy. Bref. Gotham, facile.
Et du coup, s'il veut jamais quitter sa ville, ce super héros, pourquoi il s'engage pas dans la police municipale de Gotham et puis terminé quoi.
Il a été un vrai laïcard.
Il pourra faire la même chose.
Figure-toi que Batman a été membre de la police à un moment. Batman a même été, a fini par être maire de Gotham, cher ami. Oui, il s'investit dans la vie politique. Donne-moi encore des arguments, vas-y. Je crois que ça vient plus tard. Je suis en train de me spoiler.
Non, je me pose des questions.
Je suis en train de moto-savonner la planche, mais c'est pas grave. Je te réponds. Voilà. Bon, bref, les différents auteurs.
Si,
de...
Il a pas dû rester longtemps à la police parce qu'il enfreint quand même pas mal la loi.
Il préfère faire sa propre justice. Oup, voilà. Oup.
Comme la police d'aujourd'hui,
vilain,
frère.
C'est un peu un vilain.
Comme la police d'aujourd'hui, frère. Mais fut-il pas de refus d'obtempérer au volant. La peine de mort est rétablie, pardon. Les différents auteurs de Batman semblent s'amuser à nous décrire Gotham comme une jungle où se joue sans cesse une guerre entre des super prédateurs qui se disputent leur territoire. Et le lecteur voyage au fur et à mesure des cases d'un territoire à un autre. Cette impression se ressent particulièrement bien dans les jeux de la saga Arkham, j'y vis encore.
Il va à Metropolis un peu de temps en temps aussi.
Oui, bah oui, pour aller botter le cul à l'autre con, ou lui filer un coup de main parce que il y a du cristal vert, c'est un handicapé.
Parce que je repensais à une très bonne série qui s'appelle Smallville.
Je sais pas si Batman est parfait.
Il aurait fallu Batman dans Smallville pour que ce soit vraiment top.
Tu te rappelles du générique de Smallville ? Somebody said... Bah c'est Batman qui venait sauver tout le monde. Hein. C'était pas... Bref, bon, c'est également dans je disais que c'est dans Arkham qu'on voyait le mieux Gotham, mais également dans certains comics emblématiques, hein, tels que Un long Halloween de Joseph Loeb. Il fait partie des... Il y a 8 Batman qui sont indispensables à avoir lu, et il en fait partie, c'est à se procurer. Il est très long, il faut prévoyer de le lire sur presque 2 jours, en fait, hein, mais il est canonissime. Raison numéro 6.
Excuse-moi, d'ailleurs, si tu pouvais recommander des albums, est-ce que tu recommanderais les albums qui sont sortis récemment à un prix très bas ?
Ah oui,
est-ce que là, les albums à lire absolument font partie de
ça? En fait, il y en a plusieurs, ouais. Donc, carrément, si vous les avez pas en ce moment, ils sont à moins de 5 balles. Ils sont dans les grandes surfaces.
Il y a une collection qui est sortie. Ils ont fait les 10 plus grands à 4,90 tous.
En fait, y a dans les 10 plus grands, je crois qu'ils ont réussi à réunir 6 ou 7 de ceux qui sont considérés par les gros fans comme les 8 meilleurs. Parce qu'il y a vraiment un top 8 qui se dégage chez Batman, c'est un peu étonnant. Et je crois qu'il y en a 6 ou 7. Donc, ça vaut vraiment le coup, cette collection de 10. Elle a de la gueule, c'est juste dommage. C'est du soupe, mais ça on s'en fout. C'est juste dommage. Il y a un seul truc qui est bête. Ils ont affiché le prix en gros et c'est pas un sticker, donc c'est un peu dommage. Mais bon,
ouais, mais tu le mets pas dans le.
Non, mais c'est pas un Pixo Magazine.
Tu mets un autocollant Batman.
Oui, mais clairement, le sticker, il est devant.
C'est pas un sticker. Mais c'est devant, oui.
Mais
c'est pas
devant.
Très grave. C'est pas
sur la tranche. Je veux dire, tu les poser sur le côté. C'est
bref,
Batman qui se forme.
Laissez-moi finir. Raison 6. C'est lui qui se farcit.
C'est ta faute, tu mets 12 raisons là.
C'est lui qui se farcit les super méchants, les plus tarés et charismatiques. Ah, attention, j'y viens. Difficile d'imaginer un super-héros sans les méchants qu'il doit affronter. À n'en pas douter, les super-vilains de l'univers Batman, sans contestation possible, sont les méchants les plus emblématiques du monde des comic books, avec peut-être Magneto, et Thanos pour Marvel, et Lex Luthor pour Superman. Ok. Mais qu'est-ce qui rend les méchants du Batverse si exceptionnels? Bah, tout d'abord, leur folie profonde. Ensuite, parce qu'ils sont eux aussi désespérément humains. Autrement dit, ils sont à la même échelle que Batman et à la même échelle que nous. Alors que Superman, Aquaman, Wonder Woman, déjà tout ça, bon, ils parviennent plus généralement à éclater sans trop de difficultés apparentes leurs ennemis. Hein. Parce que Batman, il est au même niveau que nous, tu vois. De ce fait, il prend des petites branlées de temps en temps. Hein. Moi, ça me paraît plus intéressant de le voir comme ça, surtout que ça lui permet de rebondir et de revenir à chaque fois plus dangereux que la fois précédente.
Comme Spider-Man, quoi.
Et je vous donne quelques raisons à la flopper comme ça supplémentaires. Les gadgets, hein, grappin, batarang ou encore les légendaires Batmobile qui n'a jamais rêvé ici d'en avoir, pardon, excusez-moi.
Moi, j'aimerais bien le bat-spray anti-requin aussi.
Films. Il a des joujoux de ouf. La Batcave, franchement les mecs, qui a jamais rêvé d'avoir une Batcave avec son écran géant, console, billard, pompe à billard, tout ça.
Est-ce qu'il a du vin au moins dans sa Batcave?
Sûrement du pinard, il a sûrement du super vin et tout en plus.
Parce qu'il est méga riche.
Bon sinon, la thune, j'ai pas trop insisté dessus. Mais bon, à côté des Wayne, Picsou, c'est quasiment un smicard. Alors, l'argent, ça fait peut-être pas le bonheur, mais
ton Bruce Wayne, tu lui enlèves sa thune, il n'y a plus de super-héros. Ouais. Quoi,
Il reste juste en lycra.
Son talent, son génie, son côté sportif, quand même. Hein, bon. La Batman Incorporation, parce qu'un un seul Batman, ça suffit pas. Et oui, le saviez-vous, Bruce Wayne a décidé de faire de la lutte contre le crime une affaire internationale. Chaque pays a donc son représentant de Batman. Et oui, même en France. Chez nous, il s'appelle Night Runner. Et oui. Bon, alors d'après mes informations, il s'agirait d'un type qui s'appelle Gérard, il habite Pigalle et il est champion de pétanque. Non, mais par contre, ça existe vraiment, Night Runner, je vous jure. Ouais.
Il est vraiment champion de pétanque?
Non, il est pas vraiment champion de pétanque, je l'ai un peu inventé. Même vieux, il reste Batman. Dans Batman La Relève, une histoire alternative où Batounet a 70 ans, Wayne développe un costume anti-âge pour retrouver son agilité d'antan. Moi, je trouve ça méga classe.
Méga riche.
Il n'y a guère qu'une crise cardiaque pour stopper sa carrière. Et là, je suis désolé, on pouvait rien faire, j'avoue. Et à titre personnel, parce que aucun de vos super machins, là, aucun n'ont eu autant ni de ces beaux matériaux que le Batman, notamment les très bons dessins animés des années 90.
Ah, ça.
Les histoires qui font une épaisseur de mon poing. Il faut le week-end pour les lire. C'est du matériel. Non, mais
Batman, il a des toutes petites mains.
Batman, en 85 ans, il a du matériel. Il y a du matériel magnifique, quoi. Même les coffrets collector de la série. C'est très très beau à collectionner les affaires de Batman. Bisous, c'était mon avis et évidemment, c'était le meilleur.
Moi, j'ai 3 points. Clairement. Ma réponse est en 3 points.
Moi, j'en ai qu'un seul.
Alors, déjà, tu dis l'autre depuis tout à l'heure, l'autre avec son slip et tout machin. Lui, il a un protège-couille de football américain au-dessus de son.
Il a un slip parce que lui, il a pas des couilles extraterrestres.
Ouais, mais c'est pas beaucoup.
Il y a même un film où il a une combinaison avec des tétons. Et c'est George Clooney, quoi.
On en parle de la série des années 60 où il dort dans son lycra, dans son lit avec Robin à côté. T'as pris ta douche, Robin? Ouais, bon, allez, dodo.
Vous savez, quand on est le meilleur, le plus fort, le plus grand et qu'on a le plus de matos, forcément, on est un peu copié.
Il y a
de la dérision. Si les vôtres, on en a pas ri, c'est parce qu'ils sont pas suffisamment intéressants pour qu'on en rie, en fait.
C'est pas des copies, c'est des épisodes officiels.
C'est des gens qui étaient là pour nuire.
Attendez, deuxième point, pour moi, c'est le Iron Man de DC, ou Iron Man, c'est le.
Ouais.
Enfin, voilà. Ouais. En gros, Ils sont juste des gadgets parce qu'ils sont multimilliardaires. Tu leur tires la thune, ils ont plus rien. Mmh. Ils sont en train de nous casser les couilles. J'ai perdu mon papa, j'ai perdu maman. Bah putain, bah déjà t'as ta thune, t'es pas non plus à galer. Et en plus, dès qu'ils sont en équipe, ils sont juste les plus arrogants et les plus casse-couilles. Totalement c'est eux vrai. Qui donnent l'ordre parce ouais, qu'ils ont la thune. C'est juste ce qu'ils font.
Un Batman.
Moi j'ai un
troisième
point.
Ah, vas-y. Franchement, troisième point, Batman, il est pas si ouf que ça. C'est vraiment ces méchants qui le rendent important.
Ah putain, c'était mon point.
Ah bah oui, mais tu peux pas.
Non, ça compte parce qu'il leur résiste.
Je trouve que Batman n'est pas si bien que ça comme personnage, c'est ces méchants qui le rendent vraiment.
Exactement.
Les dilemmes de moraux de Batman. Alors par contre, trêve de plaisanterie. En termes de super-héros, il prendrait une branlée sûrement par d'autres, je vais l'avouer. Mais évidemment, en termes de profondeur de personnage, la psyché de Batman, il y a, pour avoir lu, j'ai pas tout lu en comics, mais j'en ai lu quand même quelques-uns. Ça va loin quand même dans pas mal d'épisodes. Hein. Je vous jure que ça va vraiment loin. Ça rentre vraiment dans la tête du mec.
Le héros est pas ouf,
quoi.
Mais tout ce qui a été développé autour, c'est plutôt cool, quoi. C'est... Comme voilà. Même les vieilleries. Je vois, j'ai le DVD, faudrait que je te le prête si t'as pas vu, tu l'as probablement vu, un film des années 60.
Ah oui, avec...
Et t'avais des séries aussi à cette époque-là, où t'avais des bagarres, et les trucs cultes, en fait, c'est quand ils se tapent dessus, c'est écrit BAM.
Bah oui, c'est extraordinaire ça.
Ça, c'est devenu culte, et après, voilà, il y a eu plein de...
Ça, c'est magnifique.
Mais le héros, vraiment, Batman... Bah, c'est un mec lambda et
bah, c'est ça que j'aime.
Qui a les moyens de s'acheter un costume.
Il est dans la vie de tous les jours. C'est un gars proche de
c'est
proche
Elon
de
Musk, quoi,
comme Spider-Man.
Tous les plans sociaux de sa ville, c'est lui, quoi. Sans déconner, il y a pas lui, bah t'as pas des bibliothèques, t'as pas des logements sociaux, t'as pas machin, t'as de la corruption partout.
C'est un autocrate, quoi.
Il fait toujours
c'est
tout.
Un fasciste.
Oh. Trop loin d'un coup.
Mais bordel, mais comment ça peut. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Spider-Man, il est dans la rue à un moment.
Ouais, c'est ça, de la street, t'as raison.
Mais vraiment en plus.
Bien, bah je rends mon tablier, je pense que je me suis savonné la planche tout seul, mais je m'en fous. J'en ai rien à foutre.
Ah putain.
Ah oui, et on m'a dit récemment aussi que Batman était de droite, c'est complètement con. Batman est de gauche, c'est une évidence. Bruce Wayne est de droite pour les apparences, mais Batman est de gauche.
Je crois qu'ils sont pas vraiment politisés.
Batman, si tu veux, il est macroniste. Allez, vas-y, c'est qui pour les partis.
Batman, il fait genre, il vient de la rue comme Donald Trump.
Pépé, je te tends le micro, c'est ton tour.
Allez.
Alors du coup, j'ai un peu plus galéré pour trouver un son sur Hulk.
Bah, oui,
j'ai juste trouvé une scène que j'ai trouvé culte.
Désolé. Attends, ça va être drôle, je pense.
J'ai juste trouvé une scène culte des Marvel.
Stark, il est là.
Banner ?
Vous l'aviez dit.
Dites-lui de se changer. Je livre la fête à domicile.
Ça, c'est une fête dont je me passerai.
Docteur Banner, ça me paraît être le bon moment pour vous mettre en colère.
Et voilà mon secret, Captain.
Je n'ai jamais cessé d'être en colère.
Et là, il défonce un gros truc.
Comme toujours. Ok, donc c'est parti pour Hulk. Alors moi, je vais avoir beaucoup moins d'arguments.
Ça commence bien.
J'avais pas pensé que vous auriez des chroniques aussi solides. Mais pourquoi déjà, parce que j'ai...
Parce qu'il y en a peut-être pas des arguments.
Parce que, parce que ça va être mal préparé et pas mal improvisé.
Il a des muscles.
Mais aussi parce que, on va être honnête, les œuvres autour de Hulk... C'est pas Jojo, quoi. C'est que ce soit les jeux vidéo, c'est très décevant. Ouais, les films,
la version 64.
Les films dédiés à Hulk, c'est pas ouf. Ouais. Ses apparitions, par contre, elles sont toujours exceptionnelles. Donc moi, tout simplement, je vais commencer par vous présenter les faits, un peu vous présenter qui est ce Hulk. Et ce sera mes arguments principaux. Qui est-il? Quelles sont ses capacités? Et ça devrait suffire à vous convaincre.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que vous avez même pas trop présenté qui étaient vos super-héros, c'est pas trop ça.
Bon, c'est-à-dire que nous, ils sont suffisamment connus, il n'y a plus besoin de les présenter, quoi.
Voilà, exactement.
Bah, quand même, on sait jamais. Ah oui, parce que moi, je pourrais juste dire super-héros vert. Et tout le monde sait qui c'est.
Green Lantern.
Green Arrow.
Yoda.
Green Arrow.
Vert avec un short violet.
Ah bah voilà.
Yoda, il a un petit short violet, une petite toge des fois.
Super-héros chauve-souris. Terminé.
Voilà. Ouais, c'est vrai.
Voilà, merci, au revoir.
Bon, très bien. Donc, qui est Hulk? Donc, c'est Bruce Banner, ou l'incroyable Hulk, The Incredible Hulk, aussi appelé le Titan Vert, à ne pas confondre avec le géant vert, ou le Colosse de Jade, et il a eu plein d'autres noms que je ne citerai pas ici. Donc c'est un génie scientifique, ce Bruce Banner, qui est exposé accidentellement, à des rayons gamma lors d'une expérience en laboratoire qui tourne mal. Il sauve in extremis un gamin qui passait par là au moment de l'explosion atomique. Et qui va du coup irradier ce pauvre Bruce.
Et c'est à lui qui vole le short.
Bruce, héros avant même d'être un super-héros, il sauve une vie et paf, il se fait irradier. Depuis cet événement, lorsqu'il est désappointé, il se métamorphose en créature colossale à la peau verte, cette couleur ayant rapidement remplacé celle de la peau grise originale.
Et oui.
Pour des raisons techniques, de coups, de couleurs.
Bah, c'était trop fadasse, tout simplement.
Ouais, ouais. Bah, gris fadasse, et puis il fallait une couleur, le vert, c'était pas cher. Voilà. Des problèmes de l'époque qu'on aurait pu trop aujourd'hui. Il est alors doté d'une force phénoménale et animé par une rage qu'il ne parviendra que bien plus tard à maîtriser. Avant de continuer un peu sur Hulk, qui est ce Bruce ? Bruce, c'est un babtou fragile et réservé. Il a eu une enfance difficile. Comme à peu près tous les super-héros.
Ah, sauf Batman, quoi.
Mais arrête, c'est exactement. Il a vu ses parents. Il a vu ses parents crever devant lui.
Ouais, Batman, oui, il est riche. Il nageait dans la thune.
Excusez-moi, voilà. Pardon. Je vous passe l'étape où il se fait enlever pendant 10 ans et est mis dans un puits.
C'est terminé. Ton tour est terminé. Il a été assez long.
Mais laisse-moi enfermé dans un puits pendant 10 ans, Batman.
Parce que le petit Bruce, petit garçon, il était battu par son père. Et il a vu sa mère mourir sous les coups de ce dernier. Ah, et d'ailleurs, toute sa famille proche est décédée. Parents, grands-parents, enfants. Il a eu des enfants.
Ah ouais.
Ses oncles, ses tantes.
Ils sont tous décédés. Ça sera le bonheur.
Je l'avais aussi.
Et donc, c'est de là que lui vient l'envie de chanter. Que lui vient sa rage.
Starmania. Et oui, on y vient.
Donc, il a quand même, on va quand même parler de son papa. Son papa Stan Lee, qui l'a créé en 1962. Donc là aussi, une inspiration d'œuvres plus anciennes. Mm-hmm. Donc on pourra facilement deviner l'inspiration, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson.
Bien vu.
Avec l'ajout du mythe de Frankenstein. Oui. Ça, selon les propres dires de Stan Lee, il s'en est pas caché, il est allé s'inspirer directement.
Mais il a vu que les mecs qui créaient des vrais super-héros comme Batman, il disaient qu'ils avaient des inspirations un petit peu, donc il a copié quoi. Normal, normal.
Après voilà, en mixant un... okay, ah, j'ai pas...
T'avais compris là.
Ok.
Dans copier, j'ai compris s'inspirer des plus grands pour atteindre les étoiles quoi, pour aller encore plus haut. Mm. Donc bref, après, il y aura bien d'autres scénaristes qui compteront les aventures du Colosse. Et d'ailleurs, fait marquant, au milieu des années 80, le scénariste Bill Mantlo rendra Hulk intelligent. Parce que oui, c'est pas un héros très futé. Enfin, quoique, en fait, ce héros, voilà, il y a une certaine dualité. T'as un génie qui est Bruce Banner, un
qui sert à
scientifique.
Rien. Qui sert à rien.
Non, non. Bah, c'est...
Qui sert à rien. Envoie-le se battre, il sert à rien.
Mais justement, en fait, Bruce Banner, c'est pas un héros. Lui, c'est vraiment le mec ordinaire. Parce que Bruce Wayne, il se la raconte. Là, je veux sauver le monde avec ma thune. Ou Steve Parker Lewis.
Quoi Steve Parker Lewis.
Lui, c'est juste un ado. Il sait pas trop comment faire. Hein, je suis amoureux. Hein, je sais pas quoi faire. Hein, ma tante va me gronder. Et lui, en fait, il veut juste se sortir de là. Il veut avoir une vie normale. Et c'est lui qui se rapproche le plus de Monsieur Tout-le-Monde. C'est un mec qui veut vivre sa vie, mais il est frappé par une malédiction, en quelque sorte. Mmh. C'est super pouvoir. D'ailleurs, quelles sont ses capacités ? Ben, on va y venir d'abord à quoi ressemble ce super-héros. Il a plusieurs apparences. Donc, on a un Bruce Banner, 1m76, 58 kilos. Donc, c'est quasiment moi, en fait.
Petite trace.
Voilà, petite trace. Sinon, après, quand il est gris, il faisait 2 mètres pour 400 kilos.
Ah ouais.
Quand il est vert, 2 m30 à 2 m45, 475 à 635 kilos.
Quand même.
Et c'est des fourchettes quand il est rouge au début. Après, quand il est intelligent, il est un peu moins lourd.
Ouais, donc sur
ça
une
dépend, en fait, ça dépend beaucoup de la rage qu'il
quand
a.
Quand il est rouge, il s'appelle Elbow.
Non, mais du coup, sur une bonne voiture, faut quand même qu'il ait enfin, plus que le permis B pour passer, parce que sinon, il peut se faire têche, quoi.
C'est clair.
Avec 600 kilos, plus une voiture à une tonne.
Autant dire, non, mais la voiture, c'est lui qui l'a soulevé.
Là, sur Air France, c'est pas deux places dans l'avion, c'est trois places qui lui font payer, le mec.
Mais de toute façon, parlons de ses capacités. Lui, il peut prendre un avion et il te le balance comme tu balancerais un avion en papier.
Comme Astérix.
Donc, une force.
C'est ce qu'on lui reproche,
une force surhumaine. On connaît tous le Hulk Smash. C'est à peu près sa seule réplique culte.
Exactement.
Et bah, après, il n'y a pas que ça. On connaît tous sa force surhumaine. Mais évidemment, il y a une résistance énorme. Sa rapidité aussi. Sa capacité de cicatrisation. C'est bon dans les airs qu'il fait.
Qui peut aller dans l'espace.
Il peut bondir dans l'espace. Et ce qui est pratique, c'est qu'il respire non seulement sous l'eau, mais aussi dans le vide sidéral.
Exactement. C'est comme ça qu'il voyage.
Ce qui est plutôt pratique. En fait, c'est un peu l'équivalent de voler. Parce que tu peux sauter à des hauteurs. Ouais, à des hauteurs,
c'est juste que si tu rates ton premier, si tu rates le jet, c'est un peu plus compliqué à rattraper,
c'est clair.
Ouais, mais si tu te rates, c'est pas grave. Tu tombes, il a pas
si
mal.
Si tu rates une planète, tu tombes pas sur une planète.
Ah oui, par contre, il saute dans l'espace. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais... D'ailleurs, il me semble qu'à un moment, il se retrouve perdu dans l'espace.
Dans les films ou dans les comics? Parce dans que dans les films, ils l'ont fait, donc je pense que ça venait des comics, l'idée.
Ah, ah, ouais. Dans les films, j'avais oublié, mais...
Ouais, Ragnarok.
Je l'ai pas vu.
Ah, il est bien, pardon.
J'ai pas tout vu.
Du coup, c'est un bon Thor, pour le coup. Ouais.
Un bon Hulk.
Mais Thor, parce qu'il y a un bon Thor.
Ouais, celui-là, du coup. Quand il y a Hulk, en général... C'est un bon.
De toute façon, il n'y a pas de bon Hulk film. Parce que Hulk part... il est toujours en second. Quoi. Oui. Bon.
Bah, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, c'est un éternel second, ce pauvre Hulk.
Raymond Poulidor.
Alors qu'il mériterait tellement d'avoir.
Raymond Poulidul.
Et d'ailleurs, tellement
c'est
un
régional
bon,
de l'étape.
Tellement un bon second que, bah, du coup, souvent, quand il apparaît dans une œuvre, ça fait des scènes assez magistrales, un petit peu comme l'extrait
ouais, par contre, ça, c'est
que tu as transmis. Il est dans quasiment toutes les équipes Marvel. Il est dans les Avengers, dans les Defenders, il est dans le Shield, il est dans l'équipe du Panthéon, donc un groupe de personnages issus de la mythologie grecque un petit peu plus tard.
Normal.
Enfin, voilà, et du coup, il est dans toutes les équipes et également, il affronte tout le monde. Il a... je crois pas qu'il ait affronté Spider-Man, mais il a affronté Spider-Hulk.
Ah, le fameux.
Qui est, pour le coup, qui est assez incroyable. C'est une espèce d'araignée, enfin, un corps d'araignée, un torse de Hulk et une tête de Spider-Man version Venom, tu vois.
Ça doit être très chelou.
Et ouais, c'est un peu particulier. Et il a même affronté Batman. Dans un crossover.
Wow.
Dans un crossover, c'est
un
possible.
Crossover qui s'appelle.
Il y en a eu plusieurs. Hulk versus quelque chose.
Tu veux bien nous expliquer qui a gagné?
Malheureusement, ça s'appelle Batman contre Merci. Hulk. Voilà.
Et qui a gagné?
Second Hulk.
Qui a gagné? Puisque c'est Batman contre Hulk. C'est Batman. C'est Batman. On vérifiera.
On vérifiera.
C'est Batman.
À mon avis, ça finit sur un Xbox.
Batman versus Superman. Superman meurt, mais au moins il sauve la vie. Enfin, il sauve la planète, quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, il meurt à cause de Batman parce que Batman est un con au passage. Donc,
De toute façon, ce film il aurait pas dû exister.
Mais il existe, j'en ai rien à foutre.
C'est Zack Snyder, c'est pas bon.
Enfin bref, voilà, pas grand chose à dire de plus à part que pour moi Hulk c'était une évidence quand pour d'autres vos héros n'avaient pas l'air d'être une évidence. Pedro avait hésité avec V de Vendetta.
Oui, oui,
Angelo avait
le
hésité avec le surfeur d'argent.
Oh
Charlie a longuement hésité à prendre le Doctor Strange. Pour moi, c'était tout simplement une évidence. Hulk, le plus grand des super-héros, mais également le pire le pire des super-vilains aussi.
J'aurais dû prendre Monsieur Manhattan, je t'aurais torché tout le monde. Moi.
J'avais oublié d'aborder ce petit sujet aussi.
On sent beaucoup.
Il a quand même des super-vilains assez badass. Donc, dans les principaux, il y a l'Abomination, Thanos, mais aussi Wolverine, qui ils aiment bien se friter. Et sinon, ses ennemis, c'est à peu près tout le monde. Quand il est quand
trio de bataille, Wolverine, Deadpool et Hulk, trois mecs qui peuvent pas mourir quasiment. <quoi.
rire> Donc du coup, bah ouais, ça peut. Mais c'est ça qui est bien avec Hulk, c'est que il peut faire office de menace pour tout le monde. Et voilà, c'est quand même pratique pour créer des situations où
pour se faire des amis.
Où tout le monde. Parce qu'au final, ce qu'ils veulent souvent des comics, c'est que des héros se foutent sur la gueule. Et ils essayent de rendre ça cohérent, et avec Hulk, ça va être facile de...
Non, mais tu nous convaincs pas, là.
Voilà, c'est une grosse brute, mais également un être humain fragile au cœur tendre.
C'est comme toi, un peu en fait.
Voilà, c'est, en fait, je m'y retrouve. Et qui n'a jamais rêvé un jour énervé, par exemple, je sais pas, au volant, t'es énervé, ou au boulot, t'as pas envie de te transformer en Hulk?
Bah non, j'ai envie d'être dans la Batmobile et que la Batmobile elle s'envole au-dessus et que je leur chie sur la tronche.
Mais non,
genre,
t'as envie que ce soit instantané, t'as envie de te transformer en Hulk.
Mais non, parce que tu casses ta caisse. Tu transformes en Hulk dans ta Twingo, tu l'exploses.
C'est pour ça qu'il n'y a toujours pas eu de jeux vidéo qui valent le coup. Je pense que les consoles, les PC n'ont pas suffisamment de performance.
Non, je pense que c'est parce que les gens se respectent.
Le jour où tu as un jeu vidéo, parce que là, il y a The Avengers, mais c'est les phases avec Hulk. Non, c'est pas Hulk. Hulk, il doit tout défoncer et ça demande des ressources considérables pour un ordinateur.
Alors,
de pouvoir tout défoncer avec un Hulk, mais un jour ça viendra.
Je me permets, j'attaque, première réponse. Je suis désolé, pour moi, il est disqualifié dès le départ, ton machin là. Parce qu'il est incontrôlable. Il est incontrôlable, tu peux pas lui demander de s'arrêter au bon moment. Le gars, il déconne, donc tu peux pas compter sur lui en bataille. Donc ça peut pas être le meilleur, parce que tu peux pas lui dire tiens, va botter le cul de machin. S'il est pas décidé, il va foutre le bordel.
Il a eu une longue période de errance.
Oui, bah oui, oui.
Bruce, il en a chié. Et justement, je te parle de mon Bruce à moi, pas ton Bruce de merde.
Appelle-le Brucey, appelle-le comme d'habitude tu l'appelles, appelle-le Brucey.
Mon petit géant vert.
Ouais, en plus, pardon, mais il est utilisé par Bonduel quand même, je veux dire, pour faire sa pub, quoi, ton machin.
C'était quoi ton argument? J'avais un contre-argument, je l'ai oublié, merde.
Bah, qu'on peut pas le diriger, le truc.
Oui, voilà, en fait, c'est dans la construction du personnage, parce qu'au bout d'un moment, il reprend le contrôle.
Ah, super. Au bout de combien d'épisodes, combien de conneries?
Sa puissance est tellement incroyable, il lui faut des années.
Non, mais sans déconner. Pour y arriver. Quand il est tout vert, là, et qu'il est vénère, il a pas une gueule de Golden Retriever complètement con?
Non.
Il a les yeux du chien débile.
Oui, mais lui, il est pas en lycra.
Et ouais, voilà.
Le mien est en espèce de.
Déjà, il est pas. Enfin, tu dis ça, mais le tien, il est en lycra.
Le tien est en total lycra.
Non, au début, il a un sac plastique sur la tête. Au début, il a un sac
de lycra. Mais ça tient un épisode. Après, il est en lycra.
Deux numéros, en tout cas, c'est
vrai.
Alors que le mien, voilà. Déjà, ce qui serait logique, c'est qu'il soit à poil. Parce que normalement il déchire tous ses fringues.
Clair.
Tu sais pas pourquoi le short.
Le jean mauve, c'est vachement résistant.
Mais bon, t'imagines un bonhomme, un géant.
Non, mais il a dû l'acheter à Decathlon, je pense.
C'est un quechua, tu penses?
Ouais. C'est un truc extensible.
C'est un quechua.
Au final, il se retrouve un peu en lycra violet.
Mais... Ouais, bah ouais. Et je suis désolé, mais ouais, c'est tout naze.
Non, c'est un truc d'Omios.
Puis vert et violet, quoi. Pardon, mais Burke.
Non, mais le violet après ça reste pas.
Plus il a pas de voiture.
C'est les premiers épisodes.
Il a pas
après,
de chez lui.
Toi, il est juste en noir.
Il a pas de voiture, il a pas de chez lui, il a pas de sidekick, il a pas de copain.
Il a pas besoin de voiture. Et pendant sa période de errance, oui, il essaye de rester seul.
Même Hellboy, il fait moins débile que lui.
Parce que lui, il pense quand même à protéger. En fait, il protège l'humanité en s'enfermant, en fait, en s'isolant, en ayant une vie d'ermite.
Tu le défends tellement bien, putain.
Il aura d'autres aventures dans l'espace.
Erin Brockovich, t'aurais pu être un avocat, en fait. Vraiment. Bon, bah écoute, est-ce que Charlie, tu voulais pas casser un peu de sucre sur le dos de...
Bah non, pour moi, il est juste... C'est un super-héros de seconde zone, déjà, de base.
Allez, voilà.
Non, c'est vrai, en vrai,
il fait quand même partie des quatre... Dans ton quiz, tout à l'heure, il y avait les quatre premiers.
Quatre fantastiques, ouais.
Non,
les quatre premiers. Oui, il est juste après les quatre fantastiques, Hulk, c'est ça, c'est le deuxième.
Voilà, parce qu'encore une fois, c'était une évidence pour Stan Lee, il s'est dit, mais ouais, mais lui, c'est évidemment que c'est...
Mais déjà, t'avais déjà l'homme pierre dans les quatre fantastiques, en gros, c'est ça, mais c'est la version verte. Hein.
Ouais. Pas en pierre, en plus, désolé, mais...
Mais l'homme pierre, il reste en pierre, hein.
Ah oui, oui.
Ouais.
Et lui, il est intelligent.
Et tout le monde sait que les pierres...
Ah, lui, c'est un génie.
Ah, mais il y a Bruce derrière. C'est comme toi, il y a Batman et il y a Bruce. Et toi, il y a Parker derrière.
Parker Lewis.
Jerry Parker Lewis.
Steve Lewis Parker.
Steven.
Et ben moi, il y a Bruce Banner derrière.
Bien.
Pardon, allez, j'arrête.
Charlie, à toi d'essayer de nous vendre ton Supro.
Let's go.
Donc, les méchants, ce sont les Skrulls. Vous êtes une Kree, une lignée de nobles guerriers.
Héroïque. Noble guerrier héroïque.
C'est toujours bien les bandes annonces, ça met un petit côté épique pour rien.
Beaucoup trop dramatique.
Alors Charlie, j'ai hâte de t'entendre parce que je ne connais pas pas du tout ce personnage. J'ai l'impression que c'est le Superman de chez Marvel.
Oh putain, il a tout résumé.
C'est l'impression que j'ai.
Ah non, pas exactement.
Donc j'ai hâte.
Et ben voilà, la fin de la chronique.
Ah bah, du coup, ouais, à mon avis, enfin si, c'est à peu près ça. Pedro, attends-toi à ce que Pedro il t'attaque.
Je vais la défoncer. Je la déteste.
J'aurais même pas besoin d'intervenir.
Non, du coup, j'ai hésité, comme tu l'as dit, entre Captain Marvel et Doctor Strange, mais je me suis remis un peu dans l'histoire de Captain Marvel. Mais en fait, j'ai vu que c'est simplement la personne qu'on appelle dès qu'il y a le moindre problème. Que ce soit les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, les machins, les bidules. Dès qu'ils ont un problème, ils l'appellent.
Ghostbusters, souvent, c'est
un problème. Un petit peu.
Joséphine,
c'est un elfe de maison, en fait.
Toutes les professions qu'elle a pu faire. Alors, toutes les trucs simples, parce qu'elle a été humaine à l'origine. Aventurière, autrice, éditrice, journaliste. Chef de la sécurité de la NASA, responsable des opérations tactiques de la sécurité intérieure, okay. Agent des services secrets de l'armée de l'air, espionne à la CIA, à un moment elle a aussi un peu travaillé avec le KGB, espionne pour le Chine.
Cumule des mandats.
Tout ça c'est avant d'avoir des super pouvoirs.
Voilà, multiples retraites.
Ça c'est son CV.
Chine, non, Chine a déjà des pouvoirs.
Okay. Taux de chômage.
Bon CV pour postuler à super.
Avant, ouais, avant d'être super. Après bien sûr. Les appartenances à des groupes plus connus de super-héros, donc elle a été membre des Ultimates et créatrice des Ultimates. D'Alpha Flight, c'est la cité orbitale, la station orbitale qui protégeait la Terre pendant un moment, enfin, même encore actuellement dans les derniers comics. Ancien membre des Forces, des Gardiens de la Galaxie, des Avengers, de l'Initiative, de l'Opération Food, des Starjammers et de la Vengeance Royale.
Je ne sais pas ce que ça signifie.
Moi tu vois, quand je vois un CV de quelqu'un comme ça qui change de boîte tous les 3 mois, ça ne me laisse pas confiance.
Ça manque de stabilité.
Ça ne va jamais au bout de la période d'essai.
J'attends la lettre de motivation. Mais le CV,
tu vois, elle est passée partout, mais pourtant on ne la connaît pas. Elle est importante nulle part.
TP, il a dit c'est le Spider-Man c'est le Superman de Marvel.
Après, Spider-Man, c'est pas ouf. Au moins, elle sait être discrète.
Et du coup, en fait, en relisant toute son histoire, je vais vous faire un petit résumé en mode père castor, parce qu'en fait, c'est juste en montrant tout ce qu'il y a Nick à côté, que vous avez bien compris.
Bon, d'accord, ok.
On va commencer à la base. Avec un caractère trempé et déterminé, Carol Danvers a toujours rêvé de devenir astronaute et parcourir les planètes. Elle devient très rapidement la plus grande pilote de l'armée de l'air.
Je s'appelle Carol.
Impossible de s'identifier.
Après que son appareil fut abattu et plusieurs mois de torture, elle réussit à s'échapper d'un groupe d'insurgés afghans avec de nombreuses données classifiées. À son retour, elle deviendra une des plus grandes espionnes de sa génération, ajoutant ses nouvelles compétences à celles de pilote et de militaire. Elle enchaînera de nombreuses missions qui la conduiront à devenir responsable de la sécurité de la NASA.
Comme de par hasard.
C'est à ce moment-là qu'on attaque enfin les interactions avec les extraterrestres. Parce que pour l'instant, c'est que des interactions avec des méchants sur Terre. Parce que contrairement au vote de merde, elle va souvent en dehors de la Terre, en fait. Elle gère d'autres choses que la petite Terre de merde.
Ça m'intéresse pas.
Le mien va dans l'espace.
Le Batman va dans l'espace.
Le mien aussi va dans l'espace. Le symbiote.
J'ai pas dit que vous y alliez pas. J'ai dit qu'elle y va. C'est là où elle y va le plus souvent. C'est pas pareil.
Tu vois, elle tient pas en place, encore une fois.
Mais moi, je me contente de New York.
Plus particulièrement, ouais, toi, t'as un quartier encore New York. Tu vas large. Et plus particulièrement, donc, avec les Kree. Après quelques péripéties, elle réussit à récupérer une navette des Skrulls. Elle se retrouve dans une bataille entre les Kree, le premier Mar-Vell, et le deuxième Yon Rogg. Et pendant la bataille, elle se retrouve prostrée contre un psycho-magnétron Kree endommagé. Une puissante machine capable de transformer l'imagination en réalité.
Ok, magnifique.
C'est donc les rêves de voler et son admiration envers Mar-Vell et les pouvoirs de celui-ci amenèrent la machine à transformer Carol au niveau génétique, faisant d'elle une surhumaine à moitié Kree. Néanmoins, ce changement fut progressif et Carol mit plusieurs mois à s'en rendre compte. Ça, c'est la base.
C'est comme la puberté.
C'est exactement ça.
Et la ménopause.
Donc, avec ses premiers pouvoirs en tant que Miss Marvel, parce qu'elle va changer beaucoup de nom. Donc, Miss Marvel, elle combattra de nombreux ennemis tels que le Scorpion, le Destructeur, MODOK ou encore Grotesque, qui est un subterrien qui avait précédemment combattu les X-Men tous ensemble.
Le groupe Scorpion,
toute seule,
c'est pas sympa.
À elle toute seule, elle défonce un mec alors qu'il y avait tous les X-Men dessus. Moi, je tiens à vous le dire, c'est pas bon.
C'est vrai qu'on la voyait pas trop venir, elle, quand même.
Grâce à ces petits points ou grâce à des...
Ouais, ces petits points, ouais.
Ouais. Il n'y a pas de rayons laser qui sortent des yeux ou de... Ouais.
Le plus important, c'est surtout qu'on commence une série de « Ah, on est dans la merde, appelons Captain Marvel !» À chaque fois, c'est toujours la même chose. Vous allez voir, il y a plein de fois comme ça. Elle aidera Vision et Spider-Man à combattre le Super Skrull.
Oui, c'est des nuls.
Bah oui, parce que sans elle, Spider-Man, c'est une merde. Oui.
Bah, il n'est pas riche comme Batman, hein.
Bah, elle est pas du tout riche alors. Elle aidera les X-Men quand ils en auront besoin, ainsi que l'interférence bienfaisante de l'extra-dimensionnel E4, que je ne connaissais pas, j'avoue, à laquelle elle s'allia pour combattre les élémentaires.
À quel moment Batman l'a appelé? À quel moment pour la sauver?
C'est DC, alors.
Non mais et alors tout à l'heure il y a pas eu du Hulk dans Batman?
Il y avait juste pour se défoncer entre eux.
Bon, bah je suis désolé, mais je tiens à dire que Batman n'a jamais eu besoin d'elle.
Elle aidera les Avengers à sauver la Sorcière Rouge et Vif Argent, ainsi qu'à combattre plusieurs de leurs ennemis. Lors de rencontres imprévues avec les Gardiens de la Galaxie, par hasard, quand elle se balade dans les galaxies, elle sauvera certains de leurs membres, parce qu'ils étaient toujours en galère. Dès qu'il y a des galères, elle est là pour les aider. Tout cela, c'est seulement en tant que Miss Marvel. On n'est pas encore arrivé à Captain Marvel. C'est encore
ah oui, là, c'est d'accord.
Donc avant de devenir Captain Marvel, elle devient binaire. Ou en plus de sa force surhumaine, non encore estimée d'ailleurs, une très grande résistance au coup, la capacité d'émettre des décharges de photons et la capacité de voler, ça c'était en tant que Miss Marvel, elle avait maintenant l'aptitude de puiser l'énergie d'un trou blanc. Alors là, c'est un peu n'importe quoi.
Jacques Adiadi, je te pique tes pouvoirs. Super.
Un peu raciste.
Cette brèche interdimensionnelle est le point faible auprès duquel Binaire est capable de puiser de petites quantités d'énergie cosmique pour créer mentalement des perturbations de l'espace-temps autour d'elle. Elle est capable de modeler ses perturbations en lentilles de formes variées qui concentrent ou diffusent ces énergies relativement importantes pour obtenir un certain nombre d'effets similaires à ceux d'une étoile.
Ça, j'ai pas tout pigé. On est déjà trop technique, mais
on est très loin. On récupère la puissance d'un trou blanc pour envoyer la puissance d'une étoile à peu près où elle veut, à la taille qu'elle veut.
On est très
dans l'espace et le temps.
On est très loin du héros de rue Spider-Man ancré dans l'être humain, là, quand même.
Ouais.
Bah oui,
mais
est-ce que ça se tient scientifiquement
Est-ce qu'elle est pronuque?
Est-ce que c'est possible ce que tu dis là?
Mais c'est vrai que c'était vachement crédible, toi.
Hulk, moi j'y crois.
Ouais.
Spider-Man, j'y crois tous les jours. Ah, moi je me fais piquer tous les soirs par les araignées.
Moi, c'est-à-dire que le mien, il a pas
moi,
mon super pouvoir. Donc,
il est super riche, toi.
Donc avant de devenir
désolé, il y a Elon Musk, il est jamais devenu Batman.
Allez, vas-y Charlie.
Avant de devenir Captain Marvel, je vous laisse parce que vous êtes pas crédible, c'est juste que vous voyez que vos super-héros sont nuls en fait.
Ah non, c'est pas les nôtres, se sont jamais rencontrés. Pour l'instant, moi j'ai beaucoup de respect pour ta.
Ah si, ouais, j'ai aidé le sien déjà.
Ouais, mais moi je m'en fous, je voulais pas te tourner.
Oui, bah sans lui, tu serais peut-être mort en fait, tout simplement.
Vas-y, vends-nous ton machin.
Donc avant de Captain Marvel, elle devient aussi Warbird, puis la nouvelle Miss Marvel. Donc, on arrive à Captain Marvel. Sa première mission a été de combattre Null, la version de Hulk bien minable qui est passée à l'ennemi.
Ah oui, il s'appelle Null.
Ouais. Encore, je dis Null parce que je suis gentil, parce que ça s'écrit Nul. Hein. Ouais, donc Null, la version de Hulk bien minable qui est passée à l'ennemi, puis de participer à l'ultime bataille face à Kul,
c'est pas
du serpent.
Null, il possède les personnages, c'est un truc comme ça. Il y a Hulk qui se fait posséder par Null.
Ouais, ah, le tien, il se fait posséder.
Bah il est vraiment de lui lâcher, quoi.
Nul.
Non, mais ça arrive, voilà.
Ah, moi j'étais content, j'ai pris tous les trucs où je pouvais me mettre dedans au passage.
Je me sens sûr.
Elle combattra. Oui, c'est tranquille, toi, y a pas de lien avec les DC. Elle combattra auprès des Avengers afin de stopper la menace Phoenix, qui était une menace intergalactique qui allait attaquer la Terre. D'ailleurs, la mort de Marvel lors de ce combat la poussera à changer son nom pour Captain Marvel afin de lui rendre hommage. C'est là où arrive le Captain Marvel. Qui est un peu relou, par contre, on a les mêmes noms un peu partout, c'est quand même un peu chiant pour se retrouver ça, j'avoue. Après avoir été contrainte de quitter la Terre, elle aidera les Avengers encore une fois à combattre les bâtisseurs. Dès qu'ils ont un problème, les Avengers, on l'appelle. Une ancienne race extraterrestre qui menaçait des civilisations entières. Et bim, retour sur Terre pour la sauver de la menace Thanos. Dès qu'il y a un problème, on l'appelle, toujours la même chose.
Non.
Puis on va aider à nouveau les gardiens de la galaxie, sauver quelques planètes, mais surtout participer à la grande guerre contre les Illuminati. Afin de les empêcher de détruire le multivers.
Elle va détruire Zemmour bientôt.
Après la destruction, malgré tout, du multivers, avoir été prisonnière et torturée, elle participait à la grande bataille pour restaurer le multivers. Maintenant, actuellement, elle est la directrice d'Alpha Flight.
Toujours plus.
Et elle organise un nouveau groupe de super-héros, les Ultimates, avec Spectrum, Blue Marvel, Miss America et la Panthère Noire. Ah bah, je vais
Miss America
oui. La Panthère Noire, mais qu'est-ce qu'elle fout là? C'est Livre de la Jungle, ça.
Les Ultimates, c'est foutre de rue. Hein.
Ouais. Bah, les gars, puis... vous êtes trop deck du CV, en fait.
Pourquoi elle est directrice du Sky Group, du coup, elle gère Air France et Delta.
Sans fin, on dirait des gamins qui sont là en train de jouer. Et bah moi, je suis plus fort que toi.
Moi, elle a encore plus de trucs. Elle est présidente d'Air France.
Et bah moi, je vais dans l'espace.
Alpha Flight, c'est le truc, en fait, au bout d'un moment, ils ont décidé de vraiment mettre une station orbitale pour protéger la Terre, parce que ça casse les couilles qu'elle se fait attaquer tous les 3-4 matins, en fait, c'est ça.
Ah, ok.
Avec, donc, après de nombreuses attaques extraterrestres infructueuses, son plus grand fait d'armes en tant que directrice de la base orbitale et membre des Ultimates, combattre Galactus. Vous savez qui c'est Galactus?
Pouf, bah, c'est un gars qui est... Non,
vous savez...
C'est qui bouffe
la valeur de monde.
Thanos. Ouais.
Le dévoreur de monde.
Ah oui.
Au-dessus de Thanos.
Ah, okay, ouais.
Et vous savez ce qu'elle en a fait de Galactus?
Elle l'a mangé.
Elle l'a mis dans sa poche.
Oh non. Elle l'a transformé en semeur de vie. Maintenant, c'est une force créatrice de la galaxie.
Bien joué.
Alors moi, je... non, mais moi, tu sais quoi, je te regarde et je me dis, on est fait pour s'entendre. À mon avis, voilà, c'est une bonne coéquipière de Batman. Non, non, il n'y a pas de problème.
En conclusion, vas-y.
Est-ce qu'elle a déjà été tuée?
Non.
Parce qu'il me semble que nos personnages ont tous été tués à un moment ou l'autre.
Là, elle a eu
que
des...
ce soit dans un univers ou l'autre.
À cause des trucs, vu qu'elle était tombée sur un truc un peu violent et elle retourne deux ou trois fois, enfin, se le prend
Batman
de conneries comme ça.
Meurt
elle a
cardiaque.
Des problèmes au niveau de la mémoire, donc il y a des moments où elle perd la mémoire et à un moment, elle a du mal un peu à gérer ses.
Elle est quand même affaiblie.
Elle est quand même affaiblie par moment. Bah, sinon, binaire. Sinon, elle n'est pas restée binaire très longtemps, par exemple, là où ça devient n'importe quoi, elle a le pouvoir des étoiles, là, plus ou moins. Elle a été, à cause de ses problèmes de mémoire, elle a été redescendue, quoi. Elle est redescendue d'un cran.
Moi, le mien, je suis pas sûr qu'il meure. Il est au bord de mourir plusieurs fois, mais il est dans un état.
Ben, pour moi, il le tue.
Il le tue.
Qui ça, quoi?
Ben.
Il le tue.
Il le, même
ah,
il le
oui,
prend
c'est...
comme ça.
Oui, c'est
enfin,
vrai.
On le voit pas, là, mais il le fracasse. Si, il le fracasse la colonne vertébrale.
Oui, c'est vrai.
Dans le film, c'est la version où il revient, mais normalement...
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
En conclusion, elle est indépendante. Elle peut aider n'importe quel héros, que ce soit sur Terre, dans l'espace et dans le temps. Sans elle, de nombreuses batailles auraient été perdues et surtout, c'est l'atout majeur que l'on appelle quand c'est vraiment la merde. On se pourrait se poser la question de pourquoi elle n'est pas toujours présente pour aider la Terre, sa planète d'origine. Mais elle a répondu elle-même à cette question dans la saga d'Avengers et je vous laisse la réponse.
Il a encore utilisé les pierres.
Hé hey, je vous rappelle qu'on est en infériorité, d'accord?
Et il a encore les pierres.
On les lui vole? Et on s'en sert pour ramener tout le monde?
En claquant des doigts?
Oui. En claquant des doigts.
Même si nous n'avons qu'une chance infime de défaire ce qu'il a fait, je pense qu'on le doit à tous ceux qui ne sont plus avec nous dans cette pièce.
Et si on se lance, comment être sûr d'arriver à un résultat différent de celui de la première fois?
La première fois, vous ne m'aviez pas.
Hé, la nouvelle. Toutes les personnes ici présentes mènent une vie de super-héros. Et si je peux me permettre, qu'est-ce que tu foutais toi pendant tout ce temps?
Il y a des tas d'autres planètes dans l'univers qui n'ont pas eu la chance de vous avoir.
Ouais, mais ça, on sait. Attends, c'est une bonne excuse,
super
mais on
héros,
sait pas, ça.
C'est des super protecteurs de la Terre. Elle gère toutes les autres planètes.
Mais bon,
donc elle veut faire foutre.
Ouais, on sait pas ça.
Désolé, mais c'est un personnage de seconde zone parce que déjà, on la voit pas tout le temps.
Toi, c'est sur un tiers-quart de New York.
Et en plus, c'est une opportuniste parce qu'elle se pointe au bon moment à chaque fois. Alors que le mien, il sauve son putain de quartier tous les jours.
À mon avis, elle avait des RTT à poser, surtout, tu vois. Elle leur dit, ouais, non, mais j'étais sur Mercure, j'étais sur Alpha du Centaure et tout. On sait ce qu'il y a là-bas. Personne sait ce qu'il y a là-bas. Ça se trouve, elle est en vacances là-bas.
Alors, juste. Angelo, Pedro, vos gars là, ils bossent dans leur tiers-quart là.
Ouais.
Le résultat,
Le
résultat, c'est que c'est toujours Gotham City, c'est toujours la merde. Ouais. New York, c'est toujours la merde. Et Hulk,
là où il passe, il casse tout,
tout le monde trépasse.
Oui, mais toi, il fait plus de bordel qu'il
est
même à l'origine.
Voilà, donc s'il te plaît.
C'était pour te défendre un peu.
Tu m'as défendu, je te rajoute pour toi.
Non, mais tu vois, elle est sympa, mais s'ils avaient pas fait un film il y a quelques semaines, ou quelques mois, ou quelques années, là, on saurait pas qui c'est ta machine. Là.
Non, on sait pas qui c'est. Hein. Moi, je sais toujours pas qui c'est.
Après, la notoriété, ça doit pas rentrer en ligne de compte, je pense. Mais...
Ouais, mais si.
Ce qui me dérange dans ton personnage.
On est un peu disqualifié du coup, nous.
Non, mais que ce soit bien ou pas bien, je pense pas que ça rentre en ligne de compte. Mais moi, ce qui me dérange dans ton personnage, c'est que c'est un petit peu le... Quand t'as des vrais super-héros qui sont face à une menace, les scénaristes les ont amenés à une menace qui devient insurmontable, c'est un petit peu le Deus Ex Machina.
Ouais,
allez, on va faire venir Captain Marvel.
Ouais.
Elle est bien pratique,
celle-là. C'est le cheat code.
C'est un cheat code.
Et du coup, elle a un manque de charisme énorme, en fait. Parce que c'est vraiment le Deus Ex Machina
ultime. C'est pour ça que dans la lignée des Marvel, il y a les Avengers, donc c'est les petits super-héros. Et après, t'as les, t'as les lignées des élémentaires. Et là, c'est les... En fait, c'est Thanos, ça fait partie des grands méchants. Parce qu'il fait partie de toute une lignée. Et là, après, t'as le vrai groupe de... des Avengers, des élémentaires comme ça, qui sont là pour les défenses, et elle est à ce niveau-là.
Il y a elle, il y a l'autre taré de Strange là qui porte bien son nom. Et c'est ça,
non,
les
Strange,
élémentaires.
Il est même pas encore. Il est encore niveau en dessous.
Niveau stratosphérique.
Du coup, c'est peut-être hors concours, du coup, c'est peut-être hors catégorie.
Moi, je préfère
super-héros, on n'a pas dit hyper-héros.
Je préfère mon
adolescent. Vu qu'elle est meilleure que les autres, du coup, elle est hors catégorie, c'est ça?
Je crois.
ça peut arriver quand tu cherches un job et que t'as trop de compétences.
Elle est surqualifiée.
Vous allez nous coûter trop cher, monsieur.
En France, ça existe, monsieur.
Elle va coûter trop cher, c'est non.
En France, on peut te répondre, vous êtes trop qualifié pour le poste, monsieur.
Vous ne pouvez pas dire qu'ils ne prennent pas.
Si,
ils font ça.
Non, souvent, si, souvent. C'est une très bonne excuse.
En plus, elle est toujours absente.
Elle est trop fort.
Elle est toujours absente, elle est toujours partie en vacances.
C'est un peu comme quand tu te barres comme un criminel au bout de 15 ans et que tu dis non, je suis désolé, mais t'es vraiment trop bien pour moi. Pardon.
Voilà.
Ouais, bah non. Non, pas
ouais,
convaincu.
Non, c'est un grand nom. Ouais,
bon, on va devoir voter.
C'est non pour vous tous là.
Mais si on va devoir voter, alors on va
notre numéro 3 des autres.
Ce qu'on va faire, c'est que si Charlie, je mettrai un petit jingle sympathique pendant ça. Charlie, si tu veux bien couper une feuille en 4 et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va les numéroter de 1 à 4. Le premier.
De 1 à 3, on vote pas pour les nôtres.
On vote pas pour les nôtres de 1 à 3. Et donc ça fait 3 points, 2 points, 1 point. Et à la fin, on fait le compte des points pour chaque super-héros.
Allez.
Ah, ça va être dur.
Alors, putain, recommence.
Tu 1, 2, 3.
1, 2, 3. En fait, non, 3, 2, 1. 3 points, 2 points, 1 point.
Quelle est la question
en fait. Celui que tu as préféré après les présentations qu'on a fait.
Il nous faut 3 bouts de papier.
Celui que j'ai préféré.
Tu les mets toi-même. Enfin, tu peux faire dans le bandeau.
Nous avons 3 points. Nous avons 3 points pour Batman.
3 points pour Batu.
Nous avons 2 points pour Spider-Man. Et nous avons 1 point pour Hulk. J'ouvre le second papier. Et nous avons 3 points pour Batman.
La popularité va gagner.
2 points pour Hulk. Et 1 point pour Captain Marvel. J'ouvre le troisième petit papier. Nous avons 3 points pour Batman.
Putain.
Vous m'avez tous donné 3 points, vous êtes adorables. 2 points pour Spider-Man.
Putain, je vais être 2.
1 point pour Captain. Et
c'est clairement la popularité qui...
Troisième et dernier... Je pense que c'est au talent, pardon, excusez-moi. 3 points pour Spider-Man.
Allez.
2 points pour Captain Marvel et 1 point pour Hulk de ma part.
Putain, j'étais pas loin derrière.
Est-ce qu'il nous fait... 4 points pour Captain America et 4 points pour Hulk.
Ah.
Je pensais pas que ça allait passer, moi,
ouais.
C'est
vrai
qu'il voyait pas du
tout. J'ai fait
Captain Marvel, tu veux dire. Pas Captain America.
J'ai dit Captain America.
Oui.
Captain Marvel, excusez-moi. 6 points pour Speedy. Et Parker Lewis.
Steve
et 9 points pour Batou. Sur 9 pour Batou qui a mis tout le monde d'accord. Merci
non,
messieurs,
c'est
adorable.
C'est ton argumentaire. Voilà, c'est ce que tu disais, Charlie, c'est la popularité.
La popularité.
Voilà.
Vous avez,
Batman, on le connaît.
Pardon, mais
bien,
qu'est-ce qui vous a obligé? Qu'est-ce qui t'a obligé?
C'est le gars du coin. Bah, j'ai voulu être honnête.
On peut pas voter pour soi à partir de là.
Qu'est-ce qui t'a obligé?
On peut pas voter pour Spider-Man.
Bah, d'accord, mais du coup, sur les 3 autres, c'est parce que c'était le meilleur des 3.
Ouais.
Voilà. Qu'est-ce qui t'a.
Je voulais pas voter pour Spidey en premier.
Attends,
c'est parce que je votais clairement pas pour Hulk.
Bah non, parce qu'il est incontrôlable, le machin. moi, je l'ai mis dernier parce que t'es incontrôlable, mec. Incontrôlable, mec. Tu fous le bordel partout, tu passes, mec.
Mec.
Bon, bah on espère qu'on vous aura fait un peu marrer sur cet épisode et puis qu'on vous nous connaissez peut-être un petit peu mieux maintenant qu'on vous a parlé parce que finalement ces super-héros nous représentent un peu. Moi, tu vois, c'est un peu la justice, la morale, l'ordre, l'efficacité,
la droite,
le côté
détective.
Moi, c'est
le mec qui tue tout le monde. T'as raison.
La droite.
Voilà.
La richesse.
Moi, c'est
toi, c'est le bordel. Bah, c'est le bordel.
Moi, je suis toujours au-dessus des autres. Ça me paraît logique.
Angelo, bah il dit tout le temps fake. Tu vois, c'est un adolescent. Tu vois, il se tire encore sur la nouille. Il fait des fils avec. Et Charlie, tu nous as révélé ta part de féminité ce soir.
C'est une drôle de représentation.
Et du coup, vous êtes tous misogyne, bravo les gars.
C'est
bravo,
c'est vrai.
Tout ça parce qu'il est dernier. Oh,
c'est vrai. Je t'ai mis en deuxième, moi. Après Spider-Man.
Tu restes pédophile, misogyne.
et ensuite zoophile parce que c'est un maudit animal.
Trop, ouais. Ah, bah, je suis bestial. Moi. C'est ça en
bon.
Fait.
Vous êtes raciste.
Qu'est-ce que on fait des recours, on fait pas de recours. On avait dit qu'on faisait pas de recours.
Non, allez, recours bah, qu'est-ce que je vous recommande?
On vous recommande
d'être
en vacances.
Avec Hulk.
Quoi?
Par les Avengers.
Vous êtes bientôt en vacances? Vous êtes bientôt en vacances?
Ouais.
Bon.
En début août, je serai à Rome. Si vous êtes sur Rome en début août, j'y suis.
Allez, on souhaite des bonnes vacances aux gens. Messieurs,
allez,
dames, surveillez vos réseaux, surveillez vos applications, parce que comme l'année dernière, on va vous sortir des petits épisodes pour que vous ne nous oubliez pas cet été.
Exactement. Ciao.
Bisous.
Salut.
Hulk smash.
Ah bah, est terminé.
Houston, on a un problème.
J'adore respirer l'odeur du napalm le matin.
Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq.
J'aime me battre.
Joli coup, mon cher Michel Bouchetard.
J'ai vu un homme s'enfuir.
Il était comment?
Il était de dos.
On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier.
Hasta la vista, baby.